On va commencer Bezrat Hashem, donc on est à la page 307. Et on va commencer le paragraphe en bas de la page. Cette ligne avant la fin, Lehavin, Mashekatouf, Béchar, Aïchoudim. Donc je fais rapidement un topo rapide de ce qu'on a expliqué avant. On a expliqué juste le cours d'avant. Le cours d'avant, on a expliqué l'importance, quand on fait la tfila, et quand on étudie la Torah, l'importance de le faire avec des mots. Ça veut dire de le dire verbalement. Que très souvent, comme on a dit la semaine dernière, les gens pensent que étudier la Torah, il n'y a pas de différence si on l'étudie en disant verbalement ce qu'on dit, ou si on l'étudie par la pensée.
Oralement.
Pareil pour la tfila, on a expliqué qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que par exemple, la Amida, il la prononce pas. J'ai fait un sondage après. Ouais. Plein de gens, vraiment. Vrai. Ah oui. Il y a plein de gens qui pensent que la Amida, faut pas la prononcer, il faut la dire avec la tête, quoi.
Ouais, avec les yeux.
Avec les yeux. Alors qu'en vérité, on a expliqué la semaine dernière, David, tu te rappelles, on a expliqué la semaine dernière l'importance des mots.
Il faut parler.
Voilà, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière.
On a dit qu'il fallait la lire.
Oui, mais la semaine dernière, on a expliqué qu'est-ce qui se passe quand on le prononce verbalement. D'accord ? Donc la semaine dernière, on a expliqué que la parole a cette force qu'Akadosh Baruch Hu l'a donnée. Akadosh Baruch Hu a donné à la parole la force de fendre les cieux. C'est-à-dire que la parole a une capacité de pénétrer et de fendre les cieux pour arriver jusqu'à chez Akadosh Baruch Hu.
Donc quand même, l'amida, il faut la prononcer. Quand même.
Bien sûr, il faut la prononcer. Non. On a expliqué longuement la semaine dernière que justement la parole avait cette force de fendre les cieux. Chose que n'a pas la pensée. La pensée, c'est très important. C'est important de comprendre ce qu'on lit, c'est important de comprendre ce qu'on étudie. La pensée, c'est très important. Mais la pensée n'a pas cette capacité de fendre les cieux. Bon. Maintenant, le thème d'aujourd'hui va être un thème très intéressant. On va essayer d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour toute l'étude de la Torah. Allez, rabotez, on y va, on se concentre, parce que là, sinon, on va pas arriver. Ah, sinon, on attend qu'on finisse de manger.
Non, juste pour faire les chaim, c'est tout, c'est pour. Comme on a fait les belles
chaim. Tu veux nous servir.
On fait les chaim et ça y est, après.
C'est bon ?
Non. Même dit, tu veux un peu d'oussi ?
Non, après, ouais, merci. Allez, on va dire les chaim.
Allez, les chaim.
Les chaim.
Vas-y.
Ouais, whisky pour Mendy.
Stop, hein.
Vas-y.
Encore ? Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, étant donné qu'on a expliqué l'importance de la parole, mais d'un autre côté, l'importance de la kavana aussi également, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toutes les prières qu'on a faites dans notre vie sans kavana ?
Ah ouais, bonne question.
Ah oui.
Est-ce qu'elles servent ou pas?
Ça veut dire, en d'autres termes, quelqu'un, voilà, il a fait toute la prière, il est venu à la synagogue, il a fait la Amida, il a tout fait, mais concrètement, il était complètement à côté de la plaque. Bonsoir.
Bon.
Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vaut cette fille-là, et est-ce qu'elle peut être récupérée, et si oui, comment elle peut être récupérée?
Récupérée?
Donc,
ça veut dire qu'elle est pas bonne.
Alors, écoutez bien ce que va dire le Zohar.
Il a fait son kavana, donc.
Le Zohar va nous dire la chose suivante. Il va nous dire qu'en vérité, aucune parole n'est perdue dans le monde. Ça n'existe pas. Une parole n'est jamais perdue. Alors, il faut comprendre, je vais expliquer. Il faut comprendre que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout pour ceux qui étaient présents au cours qu'on a fait vendredi soir Parashat Noach, on a expliqué qu'avec le concept de la radio, on comprend que dès qu'on parle, on émet une onde. Et que cette onde, en vérité, elle n'est jamais perdue. Elle a des répercussions sur le monde entier. Seulement, il faut avoir des bons outils, des bons appareils pour l'écouter. Mais demandez au service des renseignements, ils vous diront qu'une voix qui est émise à n'importe quel endroit, on peut l'écouter. Si on a les bons appareils, on peut l'écouter. C'est ça le concept de la radio. C'est quoi le concept de la radio? C'est qu'on émet une onde, et que si on a un bon appareil, si on a un bon récepteur, dans le monde entier, on peut réceptionner, donc on peut récupérer cette onde et la traduire. D'accord? On est bien d'accord. Alors, seulement le chidouche, c'est que le Zohar a dit ça avant qu'on ait découvert la radio. Et le Zohar a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, il n'y a aucune parole qui se perd. Et les gens n'ont pas compris ce que le Zohar voulait dire. C'est-à-dire qu'une parole qui se perd. À l'époque où le Zohar a été écrit, dans la tête des gens, c'était j'ai dit une phrase, ceux qui l'ont écouté tant mieux, ceux qui l'ont pas écouté tant pis, et c'est fini. C'est fini, elle est partie la parole. C'était un chidouche. C'est-à-dire pendant longtemps, on n'a pas compris ce que le Zohar voulait dire. Quand le Zohar voulait dire que une parole ne s'en va jamais, une parole est toujours là, elle reste toujours dans le monde. On n'a jamais compris. Je dis pas qu'aujourd'hui on a compris à 100%, Mais comme on a expliqué vendredi soir de Parashat Noor dans le cours qu'on a fait, que des fois, la science peut nous aider un petit peu à comprendre ce que la Torah veut dire. Ça nous a éclairé. Mmh. Donc comme maintenant on lit un texte comme ça, qu'on nous dit qu'une parole ne s'en va jamais, elle est toujours là, la science nous a permis à comprendre. D'accord? Je vais vous donner encore un autre exemple que j'ai pas donné ce fameux vendredi soir. Il y a des répercussions, beaucoup de répercussions. Qui c'est qui était là ce vendredi soir? Alors, je vais vous donner encore un autre exemple que j'ai pas développé ce vendredi soir. D'accord? Regardez. Par exemple, quand on étudie le Tanya, on voit souvent la notion que dans le Tanya, on nous parle souvent de cette notion-là qu'on nous dit que le monde entier c'est Akadosh Baruch Hu.
C'est vrai.
D'accord? On nous explique que le monde entier c'est Akadosh Baruch Hu. Non? Quand on expliquait ça maintenant à quelqu'un, hein, il y a 1000 ans d'aujourd'hui, on lui dit, tu sais, le monde entier, c'est Akadosh Baruch Hu. Il prenait pour un fou. Tu lui dis, tu sais, regarde, tu vois cette pistache que t'as devant toi? Eh ben, en vérité, dans cette pistache, il y a Dieu. Il y a une étincelle divine. Bon, il rigolait, ou bien,
bon, il prend un charlatan.
Voilà. Il pensait que peut-être, il faudrait l'amener dans un hôpital spécifique, etc. Il fallait voir un médecin. Tu lui dis, tu vois cette pistache, il y a Dieu dedans. Tu vois cette chips, je vais tous les manger après, hein, vous inquiétez pas. Tu vois cette chips? D'accord? Il y a Dieu dedans aussi. Il y a Dieu dedans aussi. Et le bonhomme, il te prenait pour un fou. Pourquoi il te prenait pour un fou? Parce que tu dis, mais attends, ça c'est un chips, ça c'est une pistache. Qu'est-ce que tu es là en train de venir maintenant et de dire, ça c'est Dieu? Il y a un problème. On comprenait pas. Mais maintenant que la science est développée. Ça, j'en ai parlé un tout petit peu vendredi soir, ce fameux vendredi soir. Et que, on voit maintenant, que la physique nous a permis de comprendre beaucoup de choses. La physique nous a permis de comprendre que on peut prendre n'importe quel élément, on peut le décomposer. Et quand on décompose, à la base, on arrive toujours à la même base. Même si moi, quand je vois, là, je vois un chips et là, je vois une pistache. Mais en vérité, quand on les décompose, c'est ce qu'on découvre. On découvre qu'ils sont à la base des mêmes éléments. Exactement des mêmes éléments.
Les neutrons entre autres.
D'accord? Alors.
Le boson de Higgs.
Les mêmes éléments, ça veut dire qu'on va arriver à l'atome, après, etc. Ces éléments-là, d'accord.
Chimie, particules.
Et finalement, et ça c'est un point que j'ai pas développé. Plus on avance dans la physique et plus on découvre qu'en vérité, ces éléments qui nous ont l'air des éléments durs et des éléments qui sont, je veux dire, qui sont finis, en vérité c'est de l'énergie. La matière c'est de l'énergie. Plus on avance, plus on comprend. Chaque fois, c'est-à-dire tous les quelques années dans les revues scientifiques, on dira, ah ben on a découvert maintenant que derrière ça, il y a encore ça. Dans quelques années, on a découvert, je ne suis plus hein, maintenant les noms qu'il y a.
La physique. D'accord. Quantique.
Déjà, si vous arrêtez juste à l'atome, c'est quoi l'atome? C'est déjà de l'énergie. C'est de l'énergie qui n'arrête pas de bouger, et que cette énergie qui n'arrête pas de bouger a créé la matière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, quand on vient nous voir, on dit, tu sais, quand ma chère veut nous montrer que derrière tout ça, il y a Akadosh Baruch Hu. On n'est plus choqué. Parce que je me dis, bon, si on a réussi à découvrir que derrière tout ça, il y a de l'énergie, alors peut-être que quand Mashiach arrivera, il nous montrera comment derrière cette énergie, il y a Dieu. On n'est plus choqué quand on nous dit que derrière la pistache, il y a Dieu, derrière le chip, il y a Dieu. Parce que notre cerveau a déjà assimilé le fait que dans la matière, il y a de l'énergie. Et que la matière, c'est de l'énergie. Donc si maintenant on va venir un jour, on va nous dire, tu sais, maintenant, derrière cette énergie, il y a une énergie divine, je dis, bon, c'est un petit pas à faire. Mais à l'époque, tu prends les 300, 400 ans d'aujourd'hui, tu devais voir quelqu'un, tu lui disais, dans ce chip, il y a une énergie, il t'aurait pris pour un fou. Le Zohar le disait. Le Zohar disait, dans chaque élément, il y a de l'énergie. Les gens, ça veut dire, soit tu y croyais, soit tu y croyais pas. Plus on avance dans l'histoire, et plus on voit comment Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer. Pourquoi j'explique tout ça? Parce que, là, maintenant, on va expliquer, aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant avec toute l'étude de la Torah et toutes les paroles d'étude de la Torah, de Tfila, etc. qu'on a fait sans Kavana. Sans Kavana. Est-ce que ça vaut quelque chose? Étant donné qu'on a expliqué que le Zohar nous dit qu'aucune parole n'est perdue. Il n'y a rien qui n'est perdu. Donc c'est-à-dire ces paroles, elles sont là, elles planent. C'est-à-dire qu'imaginez qu'autour de nous, on a plein de paroles qui planent comme ça. D'ailleurs, c'est écrit comme ça. C'est écrit que quand ma chère va venir, Even Mikir Tizrak. C'est écrit que, puisque je parle des paroles, c'est écrit dans le prophète Isaïe que lorsque ma chère va venir, les pierres des murs se mettront à crier.
Ah ouais?
Alors ça veut dire quoi? Elles vont crier quoi? Elles vont dire, le rabbi précédent explique comme ça. Il dit, elles vont se mettre à crier. Elles vont dire, oui, toi tu t'es mis à parler du Lachonara quand t'étais à côté de moi, tu crois que j'ai pas entendu, mais moi j'ai absorbé ton Lachonara. Et elle va te le recracher, ton lachon d'arabe. Bien sûr.
On est mal barré.
Mais ça, c'est, mais ça, attendez.
Pas pour toi, la marche.
Je suis très sérieux.
Tout le monde.
Quand le Zohar nous disait des choses comme ça.
Bien, pardon.
C'est même pas le Zohar, c'est un prophète qui dit que les pierres se mettront à crier. Elle te dira de quel droit t'as marché sur moi. Pourquoi t'as marché sur moi? Pour qui tu te prends pour marcher sur moi? Si tu donnes la Torah, là, tu peux m'écraser. Mais si t'es quelqu'un qui n'aurait pas raconté du lachon d'arabe et des bêtises toute la journée, de quel droit tu m'as écrasé? Even Mikir Tizak. Les pierres se mettront à crier. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Quand je parle devant un mur, voilà, l'expression en français qui dit parler devant un mur, ça veut dire on a l'impression que bon, ben, le mur, c'est fini, y a rien.
Il va pas très
non, on a fait des essais scientifiques, et c'est prouvé ça.
On dit parler
c'est prouvé.
Vous
pouvez regarder les livres du Rav Zamir Cohen, etc., des livres comme ça qui. On a fait des essais sur les poteries, sur les murs, etc., et c'est démontré qu'un mur. C'est démontré clairement, scientifiquement. Que le mur réfléchit la parole et il absorbe quelque part la parole. Ça veut dire.
Pas la parole, il réfléchit l'onde.
Ben oui.
De la parole.
Et donc ça veut dire que.
Il y a une perte de
si on a maintenant ce mur avant que j'ai parlé et après que j'ai parlé, c'est pas le même mur. Il faut l'analyser avec les bons outils. D'accord. Et j'ai pas encore dit les rhymes avec ça.
Voilà. Il faut déménager tous les ans.
C'est pour ça les murs.
Pour effacer la mémoire.
Regarde. Pour ça qu'on repart les murs. C'est pas le même mur.
Physique.
Ça ramène du boulot.
Physiquement parlant, c'est pas le même mur.
L'onde. Le comment s'appelle l'étude.
Quand tu parles, tu développes une onde. Et cette onde, en vérité, je vais l'expliquer tout de suite. Quand tu parles, tu développes une onde. Et cette onde a des répercussions, en vérité, qui peuvent aller sur le monde entier. Tu comprends? Seulement le problème, c'est que nous, les hommes, nous avons une nuit qui est limitée. Les animaux ont une nuit qui est développée un peu plus, mais qui est aussi limitée. Mais si on avait eu une nuit qui était développée, on aurait pu entendre ce qu'une personne disait de l'autre bout du monde. Parce qu'une onde se développe jusqu'au bout du monde. Une onde n'a pas de limite. Le concept de l'onde. Comment on peut parler avec des gens qui sont sur la Lune? Par les ondes radio. Comment on peut faire? C'est-à-dire que la radio n'a aucune limite. Elle peut faire des millions de kilomètres. Elle n'a pas de limite. Nos limites. Elle n'a pas de limite. Elle a potentiellement zéro limite. Après... Alors exactement. Quand... Quand je dis quelque chose, bon, on n'est pas là pour faire un cours de physique aujourd'hui, mais je vais expliquer que quand je dis quelque chose, la parole, je développe une onde. Et cette onde se répand dans le monde entier. Et donc cette onde est présente. C'est-à-dire quand on te dit par exemple qu'un tzaddik, il a entendu ce qui s'est passé de l'autre côté. Quelque part, il n'y a même pas besoin de miracle parce que c'est quelqu'un à qui Dieu a donné des facultés pour entendre et pour capter des choses que nous on capte pas. Et donc il capte. C'est comme vous savez, comme la radio, tu vois, tu captes, tu règles, tu entends. C'est une fréquence. Et ça, c'est des choses qui ne nous choquent plus aujourd'hui. On ne sait pas comment le faire, mais le concept ne nous choque pas parce qu'on sait que le concept existe. La preuve, c'est qu'on arrive à le faire avec des machines pour les ondes radio. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura un scientifique qui arrivera à nous développer, qui dira, voilà comment un homme peut entendre une onde qui se passe de l'autre côté du monde. Ça nous choque pas. Ça nous choque pas du tout comme concept parce qu'on sait que ça existe pour la radio, donc pourquoi pas ça n'existerait pas pour les ondes de la parole. Avec ça, ça nous permet de comprendre un peu mieux ce que le Zohar a dit, que toute parole de Torah et de Tfila qu'on fait développe une onde. Cette onde, maintenant, il y a de deux choses l'une. Soit on arrive à faire la Tfila avec une Kavana. Là, dans ce cas-là, si j'ai bien pensé au mot de ma Tfila, dans ce cas-là, cette onde, elle monte chez Kadosh Baruch Hu. Si maintenant j'ai fait la Tfila sans Kavana, l'onde reste bloquée. C'est comme un oiseau sans aile. Elle reste bloquée. Elle reste là. Mais elle est toujours là, elle part jamais. Elle part jamais de ce monde. Il n'y a rien qui disparaît. Et donc, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est comment faire pour récupérer toutes ces ondes. Il n'y a rien qui est perdu.
Est-ce qu'elle est liée à quoi?
Elle est liée à moi. À moi, bien sûr.
Et tu peux donc, ça veut dire que si,
bien, alors,
si demain,
on va développer.
Elle s'en va avec la Neshama?
Et une Neshama, elle a un numéro de série. Ça veut dire même quand elle redescend, elle a un numéro. Bah oui. C'est un numéro de série. C'est même la Neshama, après, quand elle redescend, on continue le travail ou l'autre s'est arrêté avant. Il y a une traçabilité parfaite, hein. C'est... Et chacun, il a comme on a des ondes.
Parle de l'autre.
Alors, c'est ça le problème. Comment ça marche?
Bah oui.
Et là, on a touché un sujet compliqué. En plus, c'est un sujet qui est important parce que honnêtement, comme on a expliqué la semaine dernière, on s'était arrêté sur ça la semaine dernière, sur ce thème-là. On a dit que combien de fois ça nous arrive que quand on fait une fila, on est complètement à côté. Honnêtement, ça arrive très souvent. On est complètement à côté, on n'était pas dedans. On était dedans 5%, 10%, des fois même 0%, c'est possible. On était complètement à côté. Il suffit que la tête était occupée ailleurs, on était à côté. Donc j'ai sorti des paroles de ma bouche. Ces paroles, où elles sont parties? C'est ça la question. Ça veut dire comme ça. Si j'avais pas sorti des paroles de ma bouche, si j'avais fait seulement en pensée, là, zéro. Rien. Voilà. Ce que j'ai gagné en sortant des paroles de ma bouche, c'est qu'au moins j'ai généré une onde de paroles de Kedusha.
Même en silence.
Le fait d'avoir parlé, j'ai généré une onde de parole de Kedusha, une onde qui reste dans le monde et qui ne disparaît jamais, qui restera toujours là.
Dès qu'on bouge la bouche, on émet des ondes.
On émet toujours des ondes. Mais encore une fois, ça ne nous choque plus aujourd'hui. Mais comprenez que quand ce texte a été écrit, quand la Gemara Zaken a déjà développé ce texte, c'est 200 ans, en se basant sur le Zohar qui a été écrit il y a 2000 ans, on devait les prendre pour des fous. Quand on lisait ce texte, on devait les prendre pour des fous. La parole, les ondes, elles restent toujours là. Où elles restent toujours là? Mais nous, ça ne nous choque plus. Là, c'est un exemple, encore une fois, comment on voit comment la science nous permet de comprendre des choses de la Torah. Alors, on y va. Avec ça, j'ai pas commencé dans les mots. Le Havin Mashekatouv, donc je suis à la page Kouf Nundalet, 307. Donc là, il n'y a pas de numéro 307, hein, c'est après 306. Le Havin Mashekatouv Béchar à Yichudim Perekbet. On va essayer de comprendre ce qui est expliqué. Béchar à Yichudim. Dans le Char à Yichudim. Donc, Char à Yichudim, c'est un texte de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital qui était l'élève principal du Arizal. Perekbet, chapitre 2. D'aliédé Torah shelo bekavana, que quand on fait la Torah sans kavana, nivraim malachim berolam ayetira. Dit le Zohar, il y a des anges, donc les anges, on va expliquer après, ça correspond à des ondes, qui sont créés dans le monde de Yetira, mais qui sont bloqués, on va expliquer tout de suite. Vesham evi mazor parashat shlach, et là-bas, dans ce texte, Rabbi Chaim Vital, rapport du Zohar dans la parashat shlach, de leit kala deit avid. Il n'y a aucune voix qui n'est perdue. Voilà, c'est le Zohar, trois mots. Il n'y a pas de voix perdue. Et Rabbi Chaim Vital, 1500 ans après que c'est écrit dans le Zohar, il vient, donc l'élève du Arizal, il vient et dit, on va essayer de comprendre ce que le Zohar voulait nous dire. Et il explique. Il dit, Bar Kala de Oraita, sauf la voix de la Torah, Utslota et de la Tfila, des Salik ou Vaka, qui elle a la capacité de monter. Ça veut dire comme ça. En vérité, je pense que la radio, c'est un exemple excellent. Que, tant qu'une onde est bloquée, elle est bloquée. Tu peux la réceptionner. Mais dès que l'onde a trouvé où s'échapper, elle part. On est d'accord, c'est comme ça que ça marche les ondes. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand j'envoie une onde, si l'onde n'est pas bloquée par quelque chose, si l'onde n'est pas réfléchie par quelque chose, elle avance. Tant qu'elle n'est pas bloquée, elle avance. Ça, c'est le concept d'une onde. Par exemple, allez...
C'est un peu comme les radios qui faisaient, ils mettaient une plaque de bête de...
Exactement, voilà.
De plomb.
C'est qu'on fait, on faisait revenir. C'est exactement le concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand je suis dans le désert, quand je suis dans un endroit, quand je suis dans le désert, d'accord? Je crie. Il n'y a pas d'écho. Quand je suis dans un endroit dans lequel il y a des montagnes, je crie, il y a un écho. Pourquoi il y a un écho? D'où vient l'écho? Parce que j'ai envoyé, avec ma voix, j'ai envoyé une onde, et cette voix, elle me revient. Il y a un retour de la voix, il y a un retour de l'onde. Mais ça veut dire que tant que la voix ne s'arrête pas, elle avance. Donc quand une personne fait une fila avec Kavana, quand une personne étudie la Torah avec Kavana, avec Kavana, c'est-à-dire qu'il est dedans, on va expliquer après ce que c'est Kavana pour dans l'étude, hein, parce que Tfila avec Kavana, ça on sait ce que c'est. C'est faire la Tfila en essayant de comprendre les mots qu'on dit, en essayant de se sentir concerné. Mais c'est quoi une étude avec Kavana? On expliquera après. Ça j'expliquerai après.
Elle ne rencontre pas d'obstacles.
C'est une Tfila. Et des paroles de Torah, quand je l'ai fait avec Kavana, c'est une Tfila et Kavana qui a une force tellement forte qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et donc elle monte jusqu'à HHM. Elle s'arrête jamais. Par contre, quand elle est sans Kavana, elle est bloquée. Elle n'arrive pas à dépasser l'atmosphère de ce monde. Pour dépasser l'atmosphère de ce monde, il faut une puissance.
On n'a pas compris?
Non. Ça veut dire que comme par exemple j'ai fait la tfila sans kavana, ma tfila n'a pas assez de puissance pour dépasser l'atmosphère de ce monde. Donc elle reste bloquée. Mais elle reste là. Donc elle n'arrête pas de faire des allers-retours, ping-pong, comme ça, tac, tac, tac. Comme l'écho. Hein, quand tu es dans la montagne, tu dis shalom, que si tu entends comme voix, shalom, lam, 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 lam. Plus ta voix était forte, et plus l'écho sera long. Donc imaginez que quand vous faites une tfila, il y a un écho qui est énorme. Qui est en train de se passer. Parce que ça arrête pas de revenir. Aller-retour. Mais ça reste là, c'est ici. Ça bouge pas. Par contre, dès que je fais la tfila avec Kavana, là, ça passe direct. Ça reste direct chez Akadosh Baruch Hu. Donc là, maintenant qu'on a développé cette idée, ça va nous permettre de comprendre plusieurs choses. D'abord, ça va nous permettre de comprendre l'importance de la Kavana. C'est dommage de faire sans Kavana. Ça nous a permis aussi de comprendre l'importance de la parole. Parce que sans la parole, il n'y a pas d'onde. Mais aussi, grâce à ça, maintenant qu'on a appris un chidouche aujourd'hui, qu'en vérité, la parole reste toujours là, et que même si, au pire des cas, même si elle monte pas, elle reste ici. Si elle reste ici, ça veut dire que, en sachant la manipuler, on va peut-être pouvoir la récupérer. Ça a l'air un peu abstrait ce que je sais.
Non. La récupérer dans quel but?
Alors, la récupérer dans le but de lui permettre de monter.
Donc, elle a rencontré.
De lui redonner la puissance qu'elle n'a pas.
Et on peut récupérer celle des autres ou que les nôtres?
Non, que les tiennes.
On peut récupérer
celle des autres ou que les nôtres?
On va s'occuper de la nôtre déjà. Après, on verra celle des autres.
Elle est trop forte.
En français, il y a un proverbe qui dit occupe-toi de tes affaires. Nous, on va dire occupe-toi de tes paroles. Donc d'abord, je m'occupe des paroles. Après, je m'occuperai des paroles des autres.
Avec toutes les tefillah qu'on fait.
Oui.
Si on en a fait, je donne un exemple, 10 sans Kavana. On en fait une avec la Kavana.
Est-ce que ça entraîne les autres?
Ça entraîne les 10 ou sans...
On va voir, on va développer. J'ai rien dit encore.
Non, mais...
On va développer. Est-ce que tu as ça dans la parole? Est-ce que tu as ça dans la parole?
Tu veux te rattraper avec une fila, toi?
Non, mais
il y a une logique dans ce que je veux.
C'est intéressant, les autres.
Pourquoi? Je vais expliquer la logique de sa question. En vérité, on va expliquer plus tard comme ta logique.
On peut rattraper. Alors,
il a percé tout de suite, lui. Alors, regarde, je vais expliquer. C'est très simple. Chaque mot de la tefila, c'est comme un train. Imaginez comme un train. Le train, il n'a pas assez de puissance, donc il est bloqué. Et chaque fois que tu refais la même tefila, tu remontes dans le même train. Ben, dans ce train, entre temps, il a pris du poids. Donc, plus il prend du poids, et plus il a du mal à décoller. Mais, quand tu vas faire la tefila une fois avec Kavana, tu donnes une puissance, une patate, excusez-moi du terme, à ce train. Et le train, il décolle et il fait tout décoller avec lui. Mais ça, on va développer plus tard, parce que hein, c'est un peu trop simpliste de parler comme ça. Il faut développer dans les détails. Mais en vérité, on va expliquer que quand on fait une file avec Kavana, ça a la capacité d'être la locomotive qui va récupérer tout ce qu'il y avait derrière. Et donc en vérité...
Donc c'est un relais.
Ah oui. Ça veut dire qu'on est en train de te dire que quand tu fais teshuva, tu ne fais pas que aller depuis maintenant jusqu'à la fin de ta vie. C'est rétroactif. Tu vas réussir à récupérer une grande partie des choses. Mais... Ça, c'est à condition que tu aies fait la tefila et l'étude de la Torah par là,
c'est pas faux, ce qu'il
par la parole.
Non, c'est une question.
C'est ce que je dis.
C'est ce que j'ai dit.
J'ai dit que t'as percé.
On
va développer.
Comprendre ce que tu dis.
Quoi?
T'as la parole et en même temps comprendre ce que tu dis.
Oui, faut comprendre ce que tu dis. Faut vivre ce que tu dis.
Il y a deux actes.
Sinon, mais s'il n'y avait pas la parole, il n'y a rien de tout ça. S'il n'y avait pas la parole, ça perce pas. Alors c'est un mérite. Quand tu arriveras en haut après 120 ans, on te dira Baruch Hashem, tu as réfléchi la Torah, tu as fait une grande mitzvah. Quand la cavotte est venue au chiour de Torah, c'est super. Mais t'as pas percé. Nous, on veut percer. Tu veux percer, il faut parler.
Pour arriver à ce stade, excuse-moi, il faudrait qu'on comprenne tous le sens profond de la tefila.
Alors, attends. Qui a dit sens profond? J'ai pas dit sens profond, j'ai dit sens simple de la tefila.
Déjà, le premier niveau,
tu fais ta amida. Tu demandes à Dieu, refaïnou Hachem, guéris-nous Hachem. Guéris, je sais de quoi ça parle. Je sais, voilà, je pense à moi, je pense à quelqu'un de ma famille, je pense à un ami. C'est quelque chose de concret. Je demande à Dieu, donne-moi la parnassa. Je sais à quoi je pense. D'accord? Je demande à Dieu, barech aleinu. Voilà, ils ont une semaine de commencer. Barech aleinu, béni cette année. Je sais de quoi je parle. Je sais que l'année dernière, peut-être, c'était pas comme il faut. Cette année, j'aimerais que ça marche. Voilà, c'est concret. Ça veut dire qu'en vérité, quand on lit les traductions, c'est peut-être concret.
La traduction.
Il n'y a pas mille chemins. La traduction. Faut pas se perdre dans les cavernes.
Il faut connaître la traduction de toute la...
Oui, progressivement, il faut apprendre la traduction de toute la fila. Au moins l'amida. Au moins l'amida, le schéma. Oui, ça s'apprend. Il y a des livres aujourd'hui. Traduction basique. Comprendre au moins de quoi on parle. Dès que tu comprends de quoi tu parles, la tefila, ça s'appelle une tefila bekavana. Et là, la tefila bekavana, elle décolle. Maintenant, je voudrais m'arrêter un peu sur la Torah. Et après, la Torah, on va développer. C'est quoi l'étude de la Torah avec kavana?
C'est ça, voilà.
Parce que, si j'étudie, je dois comprendre au moins de manière basique ce que j'étudie. Sinon, je perds mon temps. À ouvrir un livre. Et à lire du texte bêtement, ça s'appelle pas de l'étude, ça. Sauf si c'est du chumash, comme on l'a dit la dernière fois. Mais normalement, quand on lit, on comprend au moins de manière basique. Alors c'est quoi étudier la Torah sans kavana? On va expliquer après. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Mishnah, étudier la Torah chez lo lishma. C'est quoi chez lo lishma? Chez lo lishma, ça veut dire pas pour l'étude de la Torah, pas pour Dieu. Ça veut dire comme ça. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour une personne étudie la Torah. Et c'est pas forcément pour Dieu qu'il le fait. Il y a des gens qui peuvent étudier la Torah, par exemple, parce que ils ont envie d'avoir des connaissances. Il y a des gens qui peuvent étudier la Torah parce qu'ils ont envie de devenir quelqu'un qui connaît beaucoup et à qui on pose des questions. Il y a des gens peut-être qui vont étudier la Torah parce qu'ils ont été éduqués comme ça, mais bon, ils le font pas pour Dieu, quoi. C'est comme ça, c'est par routine. C'est bon, pourquoi pas, on étudie. On va voir plus tard qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'une personne étudie la Torah. C'est pas des raisons mauvaises. Peut-être ça peut être, par exemple, un enfant qu'on l'a éduqué depuis son plus jeune âge qu'il faut étudier la Torah. Donc il a fait le cheder, la yeshiva, le kollel et tout, mais il a jamais pris le temps de se poser la question pourquoi j'étudie la Torah et pour qui j'étudie la Torah.
Ouais.
Et c'est pas forcément négatif. Non mais
la finalité,
Torah et mitzvot, donc
c'est une routine.
Finalité, il a raison.
D'accord, c'est une routine. C'est comme aller demander à un élève de l'école en face, aller lui demander, poser-lui la question, lui dire pourquoi tu fais tes études.
Je sais pas.
Bon, il va réfléchir, il va te répondre, mais c'est possible que ça fait des années qu'il a jamais réfléchi à la question. Après, il fait les études, parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce que mes parents m'ont mis comme ça, parce que mes parents l'ont fait, parce que c'est la routine, et parce que c'est comme ça, et bon, on le fait. Est-ce qu'il s'est posé la question pourquoi il le fait? Pas forcément. Peut-être oui, peut-être non. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on va expliquer dans la suite que c'est quoi l'étude de la Torah Bekavana. L'étude de la Torah Bekavana, c'est quand tu réalises que tu le fais pour Hachem. Mais ça, c'est très compliqué, ça. Parce que, par exemple, quand tu étudies la Gemara, quand tu étudies beaucoup de choses, est-ce que tu penses que tu le fais pour Hachem? Peut-être tu, peut-être non. On sait pas. C'est un travail de se dire, j'étudie la Torah pour Hachem.
Ça veut dire quoi, étudier pour Hachem?
Ça veut dire, dans le Tanya, il explique dans un autre endroit, que des fois, tu as des gens qui étudient la Torah et qui n'ont jamais pensé une seule fois à Hachem.
Parce qu'ils ont une approche intellectuelle. Par exemple.
Par exemple? Ou bien ils étudient pour connaître, ou pour voilà, parce que c'est intéressant, parce que c'est sympathique, parce que c'est, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Et donc du coup, ils sont à côté de la plaque. J'ai pas dit que c'est à sourd ce qu'ils ont fait. J'ai pas dit que c'est à sourd. Mais je dis que étudier la Torah sans Kavana, ça veut dire que je ne le fais pas pour Dieu. C'est très compliqué de dire que je le fais pour Dieu. Qui est capable de dire que j'ai pensé que je suis en train de le faire pour Dieu? Je sais pas, des fois. Il y a une certaine routine qui vient.
Si parfois t'as pas envie d'y aller, tu vas, c'est,
mais les trois quarts du temps, c'est pour
ça. Peut-être. Dans ce cas-là, oui. On peut dire que là, tu étudies pour Dieu.
C'est de diffuser la Torah, c'est pour toi ou c'est pour...
Pareil, après, le problème, c'est qu'il y a une certaine routine. C'est le même problème qu'on a dans la tefila, sauf qu'il est un peu plus fin, là. C'est le même problème qu'il y a dans la tefila, c'est que bien sûr qu'à la base, si tu fais une prière, c'est que t'es en train de faire une prière, tu t'es pas levé bêtement une heure plus tôt, t'aurais pu dormir une heure de plus. Qui n'aurait pas aimé dormir une heure de plus le matin? Tout le monde, voilà, dors une heure de plus.
Ouais.
Alors, qui n'aurait pas aimé? Bien sûr qu'on aurait aimé. Il y a des gens qui refusent, d'accord? Donc évidemment que si je me suis levé quelque part, c'est que j'ai envie de le faire. Bien sûr que j'ai envie de le faire. Bien sûr que j'ai envie de le faire. Mais bon, est-ce que j'ai réfléchi que je le fais pour Akadosh Baruch Hu? Je sais pas. D'accord? Je le retrouve dans la tefila, je le retrouve dans la Torah. Mais ce qu'il explique ici, c'est que tant que tu ne penses pas que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, la parole est bloquée. Elle peut pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Elle est bloquée. Elle est là!
Mais comment tu sais que tu fais pour Hachem?
C'est ça?
Je le ressens. Déjà, la tefila, attendez. Déjà?
Non, je te parle de l'étude.
Ah, l'étude, on va développer. J'ai dit qu'on allait développer. Non, j'ai prévenu que c'était compliqué. L'étude, c'est compliqué.
Bon, encore la tefila, je peux comprendre.
La tefila, on comprend. Ah oui, c'est
ça.
Soit
t'es
dedans, soit t'es pas dedans.
Voilà, d'accord. Mais là, pour l'étude, je sais pas, c'est...
Alors, on va expliquer. On va expliquer tout
ça. La méthode, quoi, ça
part. Donc, il dit maintenant. Vehine, mekavan, atatfila, ni vrai ou malach, ni boalem, abria. Quand une personne fait la tefila, donc je suis à Vehine. Quatre minutes avant la fin de la page. Vehine, mekavan, atatfila, quand une personne fait une tefila avec la kavana, ni vrai ou malach, mais oh la mabria, kemo, mekavan, atatora. Quand une personne a de la kavana dans sa tefila, avec les mots de la tefila, on génère des malachim. Mais si on fait la tefila sans kavana, ni traite, les mat, les gamre, la tefila est repoussée en bas. Donc c'est comme la notion que j'expliquais tout à l'heure de l'écho.
Une plaque de plomb.
D'accord? C'est-à-dire, voilà, tu envoies, l'onde, c'est pas que l'onde, elle est partie nulle part, l'onde n'est pas perdue, elle a été rejetée, donc elle est là. Elle est restée ici. Comment chez Katou Bezoar par Hachet Fekoud et Davresh Mamea Moudbet? Comme c'est écrit dans le Zohar, d'accord? Mon référence du Zohar, voilà. Go Rakia Tata'a, que quand la tefila est sans Kavana, la tefila, go, alors go, c'est dans le sens, elle retourne, hein, go. Donc go Rakia, c'est en araméen. Gorakia, pas dans la course, Ferrari.
Oui.
Hein? Alors, Gorakia Tata, la tefila retourne, Rakia Tata, elle retourne à l'écurie. Alors, non, elle retourne.
Si, l'écurie des voitures, bien sûr.
Ah ouais?
Au pit stop.
On appelle ça une écurie.
C'est bon?
Oui. C'est des jours. En fait.
La voiture, elle arrive.
C'est des jours, en fait.
Alors.
L'effet moumou.
Donc, c'est une fausse.
Non, c'est pas une fausse.
Reviens.
Donc, Gorakia Tata, quand la tefila n'est pas bonne. Le Zohar, il dit même pas la tefila pas bonne, il dit quand la tefila n'est pas belle. Il emploie ce terme, la tefila n'est pas belle.
Bah oui.
C'est comme une récolte, tu vois, t'as une belle récolte, une récolte qui n'est pas belle.
Bah oui, belle.
Quand la récolte est belle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une bonne kavana, tac, la tefila tout de suite elle monte. Quand la tefila n'est pas belle, go rakia tata, dès qu'elle arrive en haut, on lui dit retourne au firmament d'en bas. C'est une expression qui veut dire retourne en bas. Mais reste en bas, elle n'est pas perdue. Ve'ayen sham, parashat vayakel davreshel afamut bet, i mila kedeka yehot. Que l'importance pour la tefila, c'est que mila en hébreu, ça veut dire quoi?
Un mot.
Le mot doit être prononcé comme il faut, avec la kavana qu'il faut. Donc on a deux critères. Prononcer et avoir la kavana qui est décaillée haute comme il se doit. Ah, seulement, et c'est là qu'on va développer maintenant qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah sans kavana. La tefila, je pense qu'on a compris avec le concept de l'onde, on comprend parfaitement. Honnêtement, je me demande comment ils comprenaient ça il y a 400 ans, parce que moi, j'essaie de me l'expliquer sans l'exemple de l'onde, la radio, je comprends rien du tout. Alors que là, avec l'exemple de l'onde, la radio, là, on comprend, c'est quelque chose qui est limpide, qui est clair. Ouais.
En fait, il y a trois conditions. Il faut que tu prononces bien, que tu comprennes et que tu fasses avec Kavana.
Ah ben, c'est la Kavana, c'est comprendre. C'est comprendre et bien prononcer.
Il y a marqué une belle tfila.
C'est quoi une belle tfila?
Ça dépasse la compréhension de la belle tfila.
Non, une belle tfila, c'est une tfila qui est dite. Qui est dite avec.
Belle, ça veut dire qu'il est content de la faire.
Ouais. Ça veut dire qu'il est dite correctement, non, avec les bons mots. Et également, qui est, alors je répète, une belle tfila, c'est une tfila qui est dite correctement avec la kavana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien fait de poser la question. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on fait une tfila avec kavana, mais on ne prononce pas bien les mots. Qu'est-ce qui se passe quand on ne prononce pas bien les mots?
Trop vite.
D'accord? Par exemple, quand on ne prononce pas bien les mots, qu'est-ce qui se passe quand on ne prononce pas bien les mots? Chaque fois qu'on fait une tfila, on génère des malachim. C'est-à-dire, si la tfila arrive à pénétrer cette fameuse couche-là de l'atmosphère, si on a fait une tfila avec kavana, c'est-à-dire je vis ma tfila, la tfila, elle dépasse, elle arrive en haut. Qu'est-ce qui se passe quand elle arrive en haut? Elle génère des malachim. Des malachim qui seront ceux qui seront à nos côtés quand on va être jugé en haut après 120 ans.
Ah bon?
Et chaque année arrive Rosh Hashanah, c'est ces malachim-là qui se présentent. C'est-à-dire que Dieu dit, bon, hop, les malachim de Mendia Souline, tout le monde part ici. Tous ces malachim que j'ai générés par ma tfila, ils arrivent, ils sont là. Seulement, écoutez bien ce que je vais expliquer. Vous allez voir, la chute est énorme ici. Maintenant, écoutez la chute. D'accord? Seulement, dis le rabbi précédent, qu'est-ce qui se passe? Si une personne fait la tfila, même avec kavana, mais qui prononce pas bien les mots comme il faut, il mâche ses mots, il avale ses mots, il crée des malachim, infirme.
Handicapé. Oh. Bah oui, j'allais le dire.
Eh ben oui. Parce que les mots, ça génère des anges. Mais que si tes mots, ils sont handicapés, comme t'as eu la kavana, donc tes mots, ils ont réussi à percer. Mais le problème, c'est que comme tes mots n'étaient pas parfaits, donc ça va créer des malachim imparfaits.
Tordus.
Alors maintenant, je vais tout de suite émettre une réserve sur ça. Parce que vous savez, la dernière fois, on a parlé du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, quand il venait dans la synagogue, parce que nous, quand on lit ça, on se dit, bon, alors quoi, ça veut dire si je sais pas lire, j'arrête. Ah bah, tu imagines, tu dis, attends, je suis en train de créer des malachim tordus, moi je m'arrête, limite la cage, j'arrête. D'accord?
Prends conscience qu'il faut.
Alors. Oui, mais quelqu'un qui va dire, bon, voilà, j'ai déjà 50 balais, bon, je pense pas qu'un jour je ferai la tfila avec tous les règles du dikdouk.
Alors. Il y a des miracles.
Alors écoutez bien.
Tu peux réparer.
Il faut que je rajoute quelque chose. Quelque chose d'important.
Non, c'est David.
Il est bon là-bas.
Mandy, c'est pour ça que tu avais expliqué.
Alors attendez, il faut que je finisse une seconde.
Attends,
il faut que je finisse le raisonnement. Après, les questions avec plaisir. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de fréquenter beaucoup. C'est une histoire que je raconte souvent, mais qui va nous permettre de comprendre. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de fréquenter souvent les synagogues. Et il allait surtout. Non, il faisait le tour.
Non,
les synagogues des autres villes, pas de sa ville.
Il tournait.
Il avait l'habitude comme ça. Et quand le Baal Shem Tov tournait comme ça, il allait particulièrement dans les synagogues dans lesquelles se trouvaient des gens simples, des juifs simples. Parce qu'à l'époque, il y avait malheureusement un cloisonnement. Et les juifs simples, d'accord? Un clivage, les juifs simples étaient à part. Il allait les voir. Ces juifs simples étaient complètement déprimés. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres rabbins qui se moquaient d'eux. Qui leur disaient, mais arrêtez de dire vos Tehillim. Vous êtes en train de créer des malachim tordus. Quelque part, c'est vrai ce qu'ils disent. Et ces gens-là disent, bon, là-bas, dans ce cas-là, si on crée des malachim tordus, alors on va arrêter. Au moins, on va limiter la cage. Je préfère ne rien faire que de créer un truc tordu. Ouais. Et qu'est-ce que leur disait le Baal Shem Tov? Baal Shem Tov leur disait une phrase, trois mots. Rachamana liba ba'e. Il leur disait, Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Ça veut dire qu'après, à un certain moment, il faut arrêter de se préoccuper, est-ce que les malachim que je vais créer vont être tordus, ou est-ce qu'ils vont être droits, est-ce qu'ils vont être normaux ou pas normaux? Ça, quelque part, c'est les calculs de Dieu. Moi, je fais ce que je peux, je fais avec le judith de bord. Maintenant, si maintenant j'ai commencé à 50 balais, et que j'essaye de faire avec ce que je peux, et que maintenant je lis comme je lis, eh ben, ce que Dieu attend, c'est Rachamana, Liba, Ba'e. Rachamana, Hachem, Liba, le cœur, Ba'e, il désire. Donc, à un certain moment, il faut s'arrêter. Seulement, comme on a expliqué la dernière fois, une fois que Baruch Hashem, maintenant, on est religieux, etc., bon, c'est bon de savoir, il faut monter le niveau, c'est bon de savoir qu'il faut quand même essayer de bien prononcer les mots. Si on prononce pas bien les mots, ben, dans ce cas-là, c'est dommage, on crée des malachim infirmes. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué depuis mon plus jeune âge, parce que, depuis mon plus jeune âge, je me rappelle, les professeurs nous disaient, mes parents me disaient, toujours, ils disaient, fais attention quand il y a un mot de Tehillim, quand il y a un mot de la tfila, de bien prononcer. Même si tu prononces vite, mais bien prononcer. Parce que si tu prononces mal, tu crées des malachim qui sont infirmes. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, surtout avant les vacances, j'ai dit que si une personne, il lui faut un quart d'heure pour faire sa Amida, eh ben, qu'il prenne ce quart d'heure. C'est pas grave s'il rate la Chazara, s'il rate tout, s'il rate la Kedusha, c'est pas grave. C'est rien, ça. C'est pas grave. C'est rien. C'est plus important de bien prononcer cette fille-là, quitte même à rater pour ça la Chazara, le Kadish, etc. C'est pas grave. Mais bien prononcer, parce que chaque fois qu'on prononce bien, on crée des bons malachim. Faut vivre sa Amida. Ça veut dire, la Chazara, c'est important, tout le reste, c'est important. Mais, Shulchan Aruch est sans équivoque sur ça, qu'une personne qui veut passer plus de temps à avoir de kavana dans sa amida, il peut sans problème. Alors il y a quand même des restrictions. Par exemple, au moment où le Kaal dit la Kedusha, lui il va s'arrêter dans sa amida pour écouter ce qu'ils disent, sans répondre. C'est pas grave. Et après, s'il veut prendre un quart d'heure, 20 minutes, prends-les. Y a pas de problème. Parce que il faut chercher le plus tôt possible à arriver à ces deux critères. Bien prononcer, parce que si je prononce, automatiquement on a dit je génère une onde, comme ce qu'on a expliqué, numéro 1. Numéro 2, prononcer avec kavana. Ça veut dire vivre ce que je dis, au moins comprendre la traduction des mots. Et avec ce cahier des charges, on a deux choses. Quand j'ai prononcé, j'ai généré une onde, mais cette onde aurait pu être bloquée. Si j'ai fait avec kavana, cette onde est passée. Mais si j'ai bien maintenant j'ai fait la kavana et que j'ai mal prononcé, donc cette onde est passée, mais t'as créé des malachim qui sont infirmes. C'est dommage. Alors, c'est-à-dire, de peu, pour quelques minutes, on aurait créé des bons malachim. Imaginez quand on va être au jour du jugement, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça, quand on va être au jour du jugement, si maintenant les malachis qui vont venir nous défendre, t'auras un qui lui manque un pied, l'autre qui lui manque un bras, c'est les mots, c'est ses mots, hein.
Bon,
pas trop. Tu veux dire, mais attends, mais c'est quoi ce pourquoi il lui manque un bras, pourquoi il lui manque un pied, tu te rappelles ce mot? Hein, tu rappelles ce mot? Au lieu de dire, Elokeno, tu dis, Elkenu. Ah, et il manquait le lot, ben voilà, t'as manqué le lot, donc voilà, ça fait,
Le lot, c'est le bras.
Le lot, c'est le bras. Mais c'est sérieux, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça. C'est sérieux. Il dit, mais pour quelques secondes que t'as gagné.
Ils vont te défendre quand même.
Oui, ils vont te défendre parce que les autres ils ont rien.
C'est... Non, ils vont te défendre quand même.
Bien sûr qu'ils vont te défendre.
Bon,
d'accord. Comme on dit dans le pays des aveugles, bon, on y roi. C'est-à-dire, bon, autant avoir un malach infirme qui me défend que personne.
Exactement.
Ah oui, d'accord. Ouais,
oui.
Franchement, à la vitesse où on va. Honnête, on passe, c'est impossible.
Mais pourquoi, tu viens de faire une erreur dans ta phrase. À la vitesse où on va.
Pourquoi?
La tefila, c'est une démarche personnelle. Il faut démarrer avec le calme. Mais non, qui t'a dit ça? Qui a raconté ça? C'est n'importe quoi. Toi, tu dois commencer avec le calme. Si maintenant tu t'es pas synchro avec le calme, c'est pas grave. C'est rien. C'est pas un problème. C'est pas grave. Toi, tu prends ton temps. Plus tu prends ton temps, et après, avec le temps, ça viendra. Parce que, si on laisse traîner comme ça n'arrivera jamais. Mais si on prend son temps, progressivement, on va arriver à accélérer. Tu comprends? Mais c'est pas grave si on finit pas. C'est pas grave, c'est pas un problème. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Voilà. Il faut que tu sois à la bonne page.
Moi j'ai vu clairement quand j'étais chez Rabbi au 770, j'ai vu clairement des racines de mes yeux, j'ai vu clairement des gens que ils commençaient la mida bien sûr avec le Kaal. Et je les voyais, bon, on a le droit chaque semaine hein, un message d'Eretz Israël. Voilà. J'ai vu de mes yeux des gens, et j'ai vu continuer pendant une heure.
Une heure.
J'ai vu de mes yeux. Par exemple, un des racines que je regardais beaucoup, c'était le. Alors, je vais expliquer. Une des personnes que je voyais, c'était le frère, à la vache à l'homme, il est niftar maintenant, ça fait quelques années, le frère du directeur de la Yeshiva de Brunois. La Yeshiva de Brunois, le directeur, c'est le Rav Nissan Nemanov. Et son frère, il était aux États-Unis, d'accord? Et son frère s'appelait Moshe. Et je me rappelle, il commençait la midi, on voyait des heures, il faisait cette fille-là.
Des heures.
Il venait avec son talit comme ça, tu voulais commencer la midi, il restait des heures. C'est-à-dire, tu pouvais venir le matin à 7h, il était là, je parle de Shabbat. 7h, il était là, 1h d'après-midi, il était encore à la même place avec son talit comme ça en train de bouger. Et il y avait 80 ans. Je dis, mais mince, c'est pas possible que...
80 ans,
il bouge comme ça. Et chaque mot, il te vive. Chaque mot, on dirait une pierre qui tombe. Est-ce qu'il était avec le calme? Non,
voilà. Hein? C'est de la vraie cavana.
Ouais. Il faut une patience énorme. Essaye de te concentrer sur un sujet une minute.
C'est dur.
Tu vas voir que une minute, c'est compliqué. Une minute.
Avec
essaye une minute, ferme les yeux. Dis bon, je vais penser maintenant à un truc. Et vas-y, mets-toi à penser pendant une minute. À la montre, hein, 60 secondes. Mets ton iPhone, tu mets chronomètre. Tu vas voir, une minute, c'est très très long. Imagine-toi des gens qui font ça des heures. C'est un travail énorme. Ça, c'est la tuile. Ça, c'est la cavana.
Et notre amida, c'est tu dois comprendre mot pour mot ou juste l'idée? De la bracha.
Dans un premier temps, l'idée, et après, progressivement, il faut comprendre les mots. Après, une fois qu'on comprend les mots, il faut essayer de comprendre. On a déjà fait des cours ici, le mercredi matin, pendant pratiquement 2 ans, sur la tefila. Après, avec le temps, on comprend aussi le sens pourquoi on a mis ce mot au lieu de ce mot, etc. Mais bon, c'est des choses, après, ça demande beaucoup d'entraînement. Après, ça devient un réflexe. T'as même plus besoin après de réfléchir, ça devient un réflexe. C'est un texte que tu maîtrises, quoi. T'as dans ta tête. Alors, dans les mots. Il dit maintenant, ah, seulement à Efresh ben Torah litfila. Donc on va prendre maintenant, on est à la page 308.
308.
Deuxième ligne.
Troisième mot.
Alors maintenant, il va expliquer la différence qu'il y a entre la Torah et la Tfila. Parce que nous, ce qui nous dérange maintenant, c'est que le concept de la Tfila avec et sans Kavana, je pense qu'on l'a bien compris. On a compris parce que c'est quelque chose qu'on vit. On comprend que des fois, on est dedans, des fois, on n'est pas dedans. Des fois, on est à moitié dedans, des fois, on n'est pas dedans. Ça, le concept de la Tfila, la Kavana dans la Tfila, on a compris. Mais maintenant, il parle de la Kavana dans l'étude de la Torah. Ça, on a expliqué qu'il faut expliquer. Ça veut dire quoi, la Kavana dans l'étude de la Torah? Ça, on va développer. Est-ce qu'on peut faire une étude sans Kavana? Parce qu'on a expliqué que la même chose. L'étude de la Torah sans Kavana, elle reste bloquée. Avec Kavana, elle décolle.
Mais quelle Kavana tu peux avoir sans...
Alors, c'est la question.
Écoute, c'est massif.
Non, on va expliquer. Doucement, on va expliquer. D'abord, mais c'est quoi la Kavana? Kavana de quoi, d'abord? Quelle Kavana je dois avoir?
Il faut lire.
Ah, à Efresh ben Torah, l'itfila shel ben Kavana, mouvan me'elav. Limouda Torah, quand j'étudie la Torah, ou mevin v'yidem shel omed. Quand tu étudies la Torah, tu comprends ce que tu es en train d'étudier. Donc normalement, on peut pas étudier sans Kavana, c'est impossible. Sinon, ça s'appelle pas une étude. Je peux lire du Chumash, c'est une mitzvah de lire du Chumash, mais ça s'appelle pas une étude.
Non.
Une étude, qui dit étude, dit que tu dois comprendre au moins de manière minimale ce que tu étudies.
Donc
automatiquement tu as la Kavana. D'accord. Sinon c'est pas une étude. Sinon c'est tu lis un texte.
Bon.
Alors qu'est-ce qu'on appelle une étude sans Kavana? C'est deux termes contradictoires. S'il y a étude, il y a Kavana. S'il n'y a pas Kavana, il n'y a pas étude.
Mais il faut l'appliquer après, ce que tu as compris.
Non. Appliquer, c'est autre chose. Moi, je parle maintenant, c'est quoi une étude avec Kavana? A priori, c'est une phrase qui se contredit. S'il y a étude, il y a Kavana. S'il n'y a pas Kavana, il n'y a pas étude. C'est la question qu'il pose ici.
C'est ce qu'on fait là.
Rak seulement. Alors, il explique. C'est quoi une étude sans Kavana? Chez l'Omed Stam. Voilà un exemple d'étude sans Kavana. Une personne qui étudie Stam. Stam en hébreu. Alors Stam, ça veut dire comme ça. Plo Kavana Lishma, sans une Kavana d'étudier pour un Kadosh Baruch Hu. Il va expliquer après que si une personne étudie avec une Kavana négative, par exemple, j'étudie la Torah pour qu'on me donne du Kavod, j'étudie la Torah pour qu'on dise que je suis quelqu'un d'important, là, ça s'appelle pas seulement une étude qui n'est pas Lishma, ça s'appelle une étude avec une Kavana négative. Et là, il va expliquer plus tard que si tout à l'heure on a parlé de l'exemple de l'onde, que quand tu fais une parole de Torah ou de Tfila, tu envoies une onde. On a dit que cette onde, si elle est sans Kavana, elle est bloquée. Elle n'arrive pas à décoller et qu'après, donc justement, il faut lui permettre de décoller, de dépasser l'atmosphère de ce monde-ci. Mais au moins, ça veut dire que c'est une onde qui peut-être n'arrive pas à dépasser, mais au moins c'est une onde qui est mobile. Mais ce qu'il va expliquer plus tard, c'est que si une personne étudie la Torah avec une Kavana négative, c'est-à-dire avec une Kavana qui n'est pas cachée, là, dans ce cas-là, non seulement que ça décolle pas, ça dépasse pas l'atmosphère, mais ça reste bloqué en bas, ça reste scotché en bas. C'est-à-dire que là, on a deux problèmes. D'abord, il faut la déscotcher, et après, il faut lui permettre de monter jusqu'en haut. Là, c'est un vrai problème. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire, il dit, on n'est pas en train de, quand on parle ici d'une étude de Torah sans Kavana, on parle pas d'une personne qui étudie la Torah avec une Kavana négative. Et il y a des gens comme ça, qui étudient la Torah, pas pour Dieu. Pour une autre raison. Là, dans ce cas-là, leur étude est bloquée en bas. C'est pas mal, c'est pas une avéra ce qu'ils ont fait, mais leur étude est bloquée. Là, on parle pas de ça. Là, on parle d'une personne qui étudie Stam. Stam, ça veut dire comme ça. Bon, par défaut, il étudie. Sans se dire, je le fais pour un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il étudie sans Kavana, mais Avat Hashem chez Belibom Rinat Giloui. Que normalement, qu'est-ce qu'on aura appelé une étude de la Torah avec Kavana? C'est une étude dans laquelle tu sens que ton cœur est en train de développer l'amour vers Dieu. Honnêtement, est-ce qu'on le ressent quand on étudie la Torah? Vous me suivez?
Oui.
Est-ce que quand j'étudie la Torah, je sens que c'est l'amour de mon cœur, que je suis en train de développer l'amour vers Akadosh Baruch Hu? Pas forcément, non. Donc pourquoi j'étudie? Stam! Non, tu prends un Baal Teshuva par exemple, quelqu'un qui démarre, ou bien tu prends quelqu'un qui découvre un nouveau texte, ah, tu sens un amour, tu sens, il est là, il a le feu, d'accord? Il sent. Exactement. Bien, quand tu découvres un super commentaire qui t'a marqué, quand tu découvres quelque chose d'extraordinaire, là, tu sens que t'as une échama, t'as un amour qui va vers un Kadosh Baruch Hu. Mais bon, des fois, quand tu fais des choses plus classiques, comme du Chumash, ou des choses que t'as déjà vues, quoi, des choses qui vont pas, y aura pas spécialement de waouh, il y a ni de mauvaise Kavana, ni de bonne Kavana. C'est Stam. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Là, dans ce cas-là, l'étude n'est pas scotchée en bas. Parce que si c'est une mauvaise Kavana, elle aurait été scotchée en bas. Non, là, elle n'est pas scotchée. Là, elle monte, mais elle est bloquée. Elle ne peut pas dépasser l'atmosphère du monde. Pour dépasser l'atmosphère de ce monde-ci, il faut qu'il y ait une Kavana.
La Kavana de faire pour un
Kadosh Baruch Hu.
Bah,
Teshuva, oui, mais après, à un certain moment, tu rentres dans une routine. Tu as étudié la paracha la semaine dernière? Est-ce que. La paracha, l'Ech Lecha. Est-ce que tu l'as étudié? Tous les jours? Est-ce que quand tu l'as étudié. Presque tous les jours, Baruch HaShem. Est-ce que quand tu l'as étudié, chaque jour que tu te dis, ah non, dis je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Non, bon, un moment après, c'est de la routine. Tu aimes ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Bien sûr, tu prends du temps pour Akadosh Baruch Hu.
Mais pour Hachem sans penser forcément.
Donc ça s'appelle une étude stam. Stam, ça veut dire voilà par routine, par habitude. C'est bien. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter.
C'est vraiment stam quand même, c'est pas pour rien, je veux dire.
Stam, ça peut être pour rien.
Oui, mais c'est pas.
Stam, ça veut dire par défaut.
Quand tu prends le temps d'ouvrir, de lire, de comprendre, des gens, c'est pas.
On n'a pas dit que c'est pas bien. Attention, Chas v'Shalom.
Non, mais j'essaie de comprendre aussi.
On juge pas l'effort, c'est pas ça qu'il dit.
Non, mais j'ai bien compris, mais c'est pas. Stam, il est un peu fort.
Il parle du développement, en fait. Du développement.
Il est fort, le mot, je trouve.
Il y a une différence quand tu étudies l'Erklecha et que tu as des commentaires et que tu as quelqu'un qui t'apprend et que tu participes et que tu en parles et que tu reçois et que. Oui, il y a un partage. Est-ce que tu es au quotidien?
Il y a un effort, mais quand tu le fais, quand tu as des choses comme ça,
tu ouvres ton chumash, tu le fais, tu sais que tu dois le faire, tu le fais, et après.
Il y a une certaine routine, quoi. C'est une routine.
Tu comprends?
Non, mais,
ouais.
Alors, tu parles de routine, mais. Avoir conscience. Avoir
oui,
conscience.
Surtout, on n'en a pas jamais
non, le temps. Non, mais j'ai bien compris, oui.
Avoir conscience qu'on le fait l'ishma, parce qu'à un moment donné, tu prends conscience que tu le fais, ça suffit pour ne pas tomber dans la routine, quelque part.
Alors, c'est une bonne question, ce que tu peux. Attention, c'est une grande question, ça.
Voilà,
il y a une question qui se pose. Est-ce que ça suffit d'avoir cette kavana au début et à la fin de l'étude?
Ou de l'avoir tout le temps.
Ou il faut l'avoir tout le temps. Parce que l'avoir tout le temps, c'est très compliqué. Mais si tu dis par exemple qu'au début, avant de commencer mon étude et après de commencer mon étude, je prends quelques secondes pour prendre conscience de ce que je vais faire. Par exemple, il y a des gens qui font un certain Yehiratson. Alors d'après certains poskim, ça s'appelle une étude Lishma. Il dit voilà, t'as bien commencé, t'as bien terminé, donc bon, ça couvre tout. Voilà, c'est la locomotive, c'est le wagon qui ouvre et le wagon qui ferme. Et entre les deux, ben voilà, on a tiré les autres wagons. T'en as qui disent non. T'en as qui disent une étude Lishma, c'est que toute l'étude, tu le fais pour un cadeau. Je vais vous donner un exemple. On raconte qu'il y avait une ville de Chassidim qui s'appelait Nevel.
Nevel.
Non, pas du tout. On va expliquer tout de suite. Il y avait une ville de Chassidim qui s'appelait Nevel. Nevel. Et on dit que dans cette ville de Chassidim, ils avaient l'habitude d'étudier la Gemara comme ça. Quand ils étudient la Gemara, dans la Gemara, on a Abaye et Rava, par exemple. On dit Abaye a dit kasher, Rava a dit c'est pas kasher. D'accord? Plein d'exemples. Abaye et Rava, c'est 2 mètres de la Gemara. Quand ils étudient la Gemara à Nevel, ils étudient comme ça. Abaye a dit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que ce soit kasher. Rava a dit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est pas kasher. Toujours. Ça veut dire, c'est pas il dit, on s'arrête pas sur les détails techniques. Que, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est kasher, est-ce que c'est pas kasher. Non. On se rappelle à chaque fois qu'on est en train d'étudier ici le ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un niveau d'étudier comme ça, parce qu'en général, quand on étudie, c'est pas qu'on se perd, mais on est pris dans les détails techniques. Et c'est normal qu'on est pris dedans, parce que on essaie de comprendre ce qu'on étudie. Donc c'est pas forcément négatif. Mais déjà, arriver à avoir une kavana au début et à la fin, c'est déjà pas mal. C'est pour répondre à ta question. Mais des fois, même cette kavana, on l'a pas. On étudie, stam, voilà, par exemple, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai ouvert un lit comme ça, bon, stam. Stam, je peux pas dire que j'ai fait pour Dieu ou pas pour Dieu ou.
Pour le fun.
J'ai fait comme ça. D'accord, stam. Là, qu'est-ce qu'il dit ici? Là, dans ce cas-là, cette étude qui est faite stam, c'est une étude qui est une mitzvah. Quand j'arriverai après 120 ans, ça me sera considéré comme une mitzvah extraordinaire. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est qu'avant d'arriver à 120 ans, cette fila décolle. Cette Torah décolle. Là, il te dit, si tu l'as faite sans kavana, elle pourra pas décoller. Elle restera bloquée. Alors maintenant, on va expliquer après comment faire pour récupérer tout ça. Vous imaginez la masse d'ondes qu'on a qui sont bloquées?
La seule kavana, c'est d'étudier pour Akadosh Baruch Hu.
Oui, pour Akadosh Baruch
Hu. La Torah, elle est pour nous, elle est pour notre... La Torah, elle est pour nous, elle est...
Alors?
On dit que c'est pas pour... Dieu, il a donné la Torah pour Israël.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, alors?
Pour notre monde matériel, c'est...
Bien sûr qu'il l'a donné pour le monde matériel. Mais l'homme doit faire un effort de comprendre qu'il communique avec Dieu. Qu'il n'est pas en train juste de lire un roman. Il n'est pas en train de lire un texte, mais il est en train de lire... Il est en train de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. C'est très compliqué, surtout.
Quand tu étudies, tu communiques.
Ah oui. Honnêtement, c'est très compliqué. Plus on étudie, plus c'est très compliqué à ressentir ça. Parce qu'après, tu te prends dans les détails. Bien sûr qu'au début, quand on commence à apprendre quelque chose, on a le feu et la flamme. Mais après, quand on étudie, surtout si on étudie plusieurs heures, c'est très difficile après de ressentir ça. Donc finalement, on a beaucoup de tfilotes comme ça, et beaucoup, surtout d'études de la Torah, on parle de l'étude, qui sont bloqués dans le sens qu'ils peuvent pas dépasser l'atmosphère de ce monde.
C'est toujours mieux que rien, c'est ça.
C'est sûr ça, attention, oui, c'est sûr ça. C'est un mérite, c'est une mitzvah, c'est sûr.
Sauf ce que tu disais tout à l'heure, de savoir que ça pouvait être une kavana négative.
Ah, si c'est une kavana négative, si c'est une kavana négative, on dit qu'il faut quand même le faire. Quelqu'un vient me voir, il me dit, voilà, je suis pas religieux, je vais étudier la Torah, parce que, pour challenge intellectuel. Prends-le. Parce que il y a une assurance qui dit que quand on commence par ça, on finira on après par le permettre d'aider à décoller, à arriver à décoller.
Tu joues l'espoir.
Non, c'est pas juste, c'est la réalité.
Mais c'est bien.
Et en plus, c'est un mérite pour lui. C'est un mérite d'avoir étudié. Quand il arrive en haut, ce sera un mérite. Mais peut-être que s'il ne fait pas avec Kavana, il va peut-être pas sentir comment cette étude change sa personne. Vous me suivez?
Mais peut-être qu'à un moment,
quand ma fila a décollé, quand elle a réussi à dépasser l'atmosphère, je sens que ça m'a changé. Quand elle n'a pas dépassé l'atmosphère, elle reste bloquée. C'est pour ça qu'on peut avoir des gens, des fois, qui viennent pendant des années à des cours de Torah, et ça les a pas changés. Ça les a pas changés, ça n'a rien fait en eux. Par contre, on dit que ça, c'est quand on étudie la partie dévoilée de la Torah, comme la Gemara, la Halakha, que celui qui veut l'étudier par pure curiosité intellectuelle, ben, ça peut rester bloqué, et ça, donc du coup, il sera jamais réellement inspiré.
Ah, Chazak. Ah.
Mais par contre, c'est écrit, le Zohar, il dit que quand on étudie la partie cachée de la Torah, c'est-à-dire quand on étudie le Zohar, ou bien par exemple quand on étudie le Tanya, hein, que tous les textes qui sont basés sur le Zohar, c'est écrit que c'est impossible que la Neshama n'a pas un moment ou un autre la Kavana. C'est impossible. À un moment ou un autre, quand on vient d'un cours de Tanya, forcément, le cœur, il va ressentir et pshk, là, ça va décoller.
Donc on est rassuré, là.
Pour,
le,
je sais pas, moi, je dis, voilà, pour les sushis, alors.
Non, pas pour les sushis. Pour les sushis. Pour étudier, je sais pas, moi,
t'as
pour
compris le truc
de quelqu'un qui est considéré comme une cabane négative.
Est-ce que, encore une fois, j'ai raté.
Quelqu'un qui vient et qui se dit, voilà, quelqu'un a perdu quelqu'un de proche, il dit, bon, j'ai perdu quelqu'un de proche, parce que j'ai perdu quelqu'un de proche, pendant l'année, on va dire,
c'est pour Dieu, c'est pas le bon
sens. Il rentre dans les cours.
C'est pour Dieu.
Est-ce que c'est une cabana?
Bien sûr. Bien sûr. 100%. C'est une cabana, c'est que sa neshama a été secouée et ça lui a donné envie de. Bien sûr.
Mais là, on est en train de parler d'un déclencheur. C'est-à-dire le fait de.
C'est un déclencheur.
L'événement est un déclencheur, mais ça ne t'empêche pas.
C'est comme sa neshama a été secouée et surtout dans des moments comme ça, on est plus proche de la vérité. Ça veut dire dans des moments comme ça, on se remet en question.
On est plus réceptif.
On se remet en question et donc du coup, on. Il y a des choses qu'on accepte plus facilement.
Disons, voilà, moi je reste dans ton histoire. Le gars, il rentre dans le cours.
Pourquoi il est venu?
Ça y est, là, on vient de le dire pourquoi il est venu. La première fois, il le sait. Le premier mois, il le sait.
Il est dedans, il vit la chose.
Mort. Le premier trimestre, grâce à Dieu, il a un peu moins de dents, mais il est encore dedans. Mais après, ça rentre comme ça.
Alors dans ce cas-là, il passe à un mode stam. Ça veut dire, il a une étude qui est là.
Moi, d'habitude.
D'accord? Mais bon, l'étude, elle est là, mais les ondes restent bloquées dans le monde.
Okay, et s'il a des réminiscences de ce pourquoi il est.
Ah, attends, j'y arrive, ça. Maintenant, on veut faire de la récup, nous. On veut faire, comment ils appellent ça?
Recyclage,
voilà. On veut recycler, nous. On veut recycler tout ce qui a été perdu. Tous ces gaz, là, qui sont perdus. On veut les récupérer. Alors, on y va. Dis maintenant, Im et Ach enolomet shelo lishma mamash. Celui qui, si une personne étudie vraiment chez le lishma, ça veut dire quoi vraiment chez le lishma? Ça veut dire pour une intention négative, comme on a expliqué les exemples. Par exemple, Leïd Gadel, pour devenir quelqu'un de grand. Le gars, il fait toutes ses études et tout, il étudie toute la Torah, parce qu'il veut devenir, il veut qu'on l'appelle un jour monsieur le grand rabbin.
Pour se péter.
Ça existe.
Hein? Peut-être, ça existe.
C'est vrai qu'il veut devenir Dayan, une histoire comme ça.
Voilà.
C'est...
Oui? Leïd Gadel. Ça dépend pourquoi il veut devenir Dayan. Attends, des nuances.
Il est rentré au collège, il a dit qu'il va.
Pourquoi il veut devenir Dayan? Est-ce que peut-être par exemple parce qu'il a promis à ses parents pour faire plaisir à ses parents?
Il a trop.
Donc là, c'est peut-être c'est quelque chose de. C'est pas quelque chose forcément. Il le fait pas pour Dieu, mais c'est pas négatif. Peut-être c'est par exemple quelqu'un qui dit je trouve qu'un peuple juif il manque de Dayanim, je veux me rendre service pour le peuple juif. Bon, c'est bien.
Parce qu'il y a un salaire.
Là, c'est Leïd Gadel. T'as raison. Là, dans ce cas-là, c'est une étude qui a son importance, mais elle reste scotchée en bas. C'est-à-dire qu'après, il faudra la déscotcher. Ah, c'est plus compliqué, ça.
Mais à ce moment-là, c'est la partie, je dirais, personnelle du Dayan en question.
Oui.
On a fait un métier.
Oui.
C'est sur cette partie-là.
Son ressenti personnel, oui.
Dans son professionnel, le fait de connaître.
Ah, c'est des mérites, c'est pas de problème, c'est sûr, c'est des mérites. On dit pas que cette Torah n'est pas cachère. On dit simplement que cette Torah ne peut pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, peut-être qu'il peut avoir, voilà. Ça veut dire qu'il change, il ressentira pas forcément, en clair, ça veut dire qu'il ressentira pas forcément comment son étude l'a changé. Si ma tefila a décollé, si ma Torah a décollé, je vais sentir que ça m'a changé, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui a été percé. Mais, parce que même en nous, il y a plusieurs sphères dans la personne. Quand on dit que ça perce, ça veut dire que ça a percé dans moi aussi. Ça a percé chez moi aussi. Mais si tu dis que ça a pas percé, ben voilà, ça veut dire que ça reste ici, ça reste en vrac. Et donc il y a beaucoup de masse qui reste comme ça, qui n'a pas forcément percé. Donc à un moment, il faut que ça perce tout ça.
Et tu parles de la première étude, du première intention de l'étude, ou alors des études successives?
Non, je parle de toute l'étude là. Il faut une kavana. Il faut la kavana. Ça, c'est la question tout à l'heure dedans.
Un rabbin d'une communauté qui fait ça pour sa parnassa, qui fait la prière, il est payé par le.
Ça viendra pour sa parnassa.
Bah, il est payé par la communauté.
S'il est chalier,
tu crois que c'est une parnassa mirobolante, rabbin?
Non, mais parce que il fait aussi d'un côté, parce qu'il fait sa prière, mais il fait aussi pour.
Il faut bien qu'il soit payé pour qu'il puisse vivre.
Oui.
Je veux dire, non, c'est quelque chose que personne ne pourra savoir. Ça, c'est entre lui. Et, si le rabbin il sent qu'il le fait pour Akadosh Baruch Hu, ben, ça change pas qu'il doit être payé parce que tout travail mérite salaire et en plus il faut bien qu'il vive. Mais ça dépend de ce qu'il a dans la tête, quoi.
Ça crée du temps.
Comme on s'en expliquait jeudi dernier pour ceux qui étaient là. Moi, je vais pas revenir dessus. Est-ce qu'on est sakhir? Est-ce qu'on est employé ou est-ce qu'on est chaliach? Pour ceux qui étaient là.
On a le mandat ou pas.
Alors, il explique. Deha lo salik min shimsha kemo shekatuv bezohar parashat vayechi d'avresh rav gimel amoudbet. Alors, j'accélère un petit peu. Donc, si une personne avait étudié la Torah avec une kavana négative, ça, c'est quelque chose qui ne pourra jamais décoller. Pourquoi? Vaïnou mishum shemarshavto vekavanato el mitlapshot beotiot adibur ve'enam manichot oto les salkal ela. Pourquoi? Alors en vérité, il explique comme ça. C'est vraiment des images. Vous savez, quand on lit le Zohar, encore une fois. Bon, aujourd'hui, la physique te permet de comprendre beaucoup de choses qu'on a expliqué au début du cours. Mais par exemple, écoutez l'exemple que donne le Zohar. Le Zohar il dit comme ça. Le Zohar il dit une personne qui étudie la Torah avec une pensée négative. Ça veut dire avec, par exemple, pour devenir quelqu'un de grand. C'est comme si que il a les mots de la Torah qui veulent décoller et qui ont une capacité de décoller, donc comme un ballon dans lequel tu as mis de l'hélium qui peut décoller, et dessus tu mets un vêtement en plomb. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la Torah il n'y a pas d'hélium? Bien sûr qu'il y a de l'hélium, il veut décoller. Mais le plomb de tes mauvaises cavanotes, il est tellement lourd qu'il ne pourra jamais décoller.
Ça s'appelle la poussée
d'Archimède. La poussée d'Archimède. Donc ça veut dire comme ça, c'est-à-dire qu'on a plusieurs problèmes. Il y a un premier problème, c'est que si déjà tu as la cavana, là ça te permet de dépasser l'atmosphère. Maintenant, sans même arriver à dépasser l'atmosphère, des fois, t'as des gens que c'est même pas qu'ils sont bloqués ici, ils sont bloqués en bas. Parce qu'avec leur mauvaise cavanote, c'est comme si qu'ils ont mis un truc de plomb qui bloque leur tuyla et qu'elle peut pas bouger. Ça veut dire qu'après, il faudra faire teshuva sur ça, pour enlever ce vêtement de plomb, et après seulement, on pourra passer à la phase suivante. C'est les exemples que donne le Zohar, hein. très physique, hein, très. Ça veut dire que si on... C'est ce que dit le Zohar. Il dit, alors dans les mots, il dit que ma pensée va s'habiller dans les mots de la parole et elle va la bloquer en bas. Comme un vêtement de plomb, comme ça, que tu le bloques. Ça veut dire, t'as un ballon qui peut décoller, mais quand tu mets dessus un truc en plomb, il est bloqué. On est d'accord? Donc, est-ce que ça veut dire que les mots de la Torah ont changé? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne décollent pas? Non, ils peuvent décoller. Mais maintenant, ils peuvent pas décoller. D'accord? Donc, il y a deux choses. Il y a une barrière en haut qui peut bloquer le ballon. Ça, c'est un premier élément. Ça, c'est la tefila sans kavana et la Torah sans kavana. Et un deuxième élément, c'est que des fois, dans le ballon lui-même, avec les mauvaises kavanotes, tu mets un truc dessus qui le bloque. Une poussée contraire. Une poussée inverse. D'accord? Donc, on a ces deux notions-là.
Donc, quoi qu'il arrive, toujours moins de débloquer.
Donc, je répète. Si, il faut bien comprendre. Si une personne étudie la Torah stam, ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le ballon, est-ce qu'il décolle ou pas?
Oui, non. Oui,
il décolle, mais ça. Il décolle, mais il reste bloqué en haut. D'accord? Voilà. Il reste bloqué la couche de...
C'est ça, c'est
il reste bloqué en haut. Après, avec la kavana, qu'est-ce qui se passe? Il transperce la couche d'ozone. Si maintenant une personne étudie pas stam, il étudie avec une kavana négative, qu'est-ce qui se passe? Non seulement qu'il monte pas, mais il bloque son ballon en bas. Il est bloqué en bas. C'est ce qu'il explique ici. Alors, Ela mipne chez kavanato la shamaim. Elle, donc, vachanami, bidfila chez le kavana chez mechashem archavot zarot. Ela seulement. Mipne chez kavanato la shamaim. L'écart, c'est pour ça, yesh la tikkun bekal achazor velav. Dis bon, imagine-toi maintenant, on va reprendre la tefila maintenant. La tefila et la Torah en vérité, c'est la même chose. Imagine-toi maintenant une personne qui a fait stam. Voilà, comme on a dit stam. Bon. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là n'a pas fait pour Dieu? Écoutez bien la question.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas fait pour Dieu?
Pas complètement.
Non, on peut dire ça.
Non, on peut pas dire ça. Ni oui, ni non.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Ni oui ni non. Je veux bien que tu dises qu'il l'a pas fait pour Dieu, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de volonté explicite de le faire pour Dieu. Mais tu peux pas dire qu'il y a une volonté de ne pas le faire pour Dieu. Il n'y a pas eu de volonté.
Obligatoirement de le faire pour Dieu. S'il n'y a pas la volonté de Dieu, il peut pas le faire.
Alors, c'est ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit, c'est qu'en vérité, même si une personne le fait stam, s'il n'a pas eu de kavana négative, Dieu il sait qu'en vérité, au fond de sa pensée, la kavana était les shem shamayim. Comme on l'a dit tout à l'heure, le bonhomme il est venu, il a pris une heure de son temps pour étudier la Torah, pour venir à un cours. Il a pris une heure de son temps pour faire cette fila. Même s'il n'a pas pensé à ce moment-là qu'il fait pour Dieu. Mais Dieu, il sait que si c'était pas pour toi, j'aurais préféré rester à la maison. Il l'aurait pas fait.
Alors, écoutez,
comme Akadosh Baruch Hu sait, et là, ça va, là, attention, on a une belle chute. Comme Akadosh Baruch Hu sait, qu'en vérité, même si concrètement, on n'a pas pensé à lui, mais au fond, on le fait pour lui, parce que sinon, on l'aurait pas fait. Alors, Akadosh Baruch Hu va être très tolérant, et il va nous permettre de récupérer ses énergies très facilement. Comment il nous récupère cette énergie? Il dit, c'est très simple. Et tu vois, tous ces ballons qui sont bloqués en haut, enfin, ceux qui sont bloqués en bas, ça, c'est plus compliqué. Mais tous ceux qui sont bloqués en haut, c'est quoi? Le jour où tu feras une bonne fila et que tu vas crever la couche, d'accord? Eh ben, tous les autres, ils vont monter avec. Mais attention. Attends, doucement. Attention. Ça va être fractionné. Ça veut dire quoi? Imaginons, par exemple, que je fais une amida. Je fais 19 brachot dans cette amida. Et que, un matin, bon, je la bague tous les matins, et un matin, j'ai une grande kavana sur la bracha de Refaenu. Donc, pour la bracha de Refaenu, lac, j'ai transpercé la couche. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, bon, je sais que les autres Refaenu que tu as fait, tu n'as pas pensé à moi, mais au fond de toi, tu l'as fait pour moi. Alors, tous les Refaenu que tu as fait avant, on va les laisser passer aussi.
Ils vont tous guérir. Ah, d'accord. Donc, c'est sélectif.
Oui, c'est sélectif. Sélectif, ça veut dire, ce que tu as fait, Bekavana, tout ce qui est similaire, tu dis, hop, allez, on passe.
Alors, question.
Ah, c'est pas les 19 autres.
Ah non. C'est que celle-là qui passe. Alors. Pareil. Par exemple, autre exemple. Imaginez par exemple que je fais la tefila et que ce jour-là j'ai eu la kavana sur un mot spécifique de la tefila. Un mot, j'ai eu une grande kavana. Je lui ai dit bon, tous les autres mots que tu as fait depuis ta naissance, qui étaient un petit peu bloqués, ils passent.
Mais j'ai pas compris le rapport avec l'étude.
Le rapport est très simple. C'est pareil avec l'étude.
Je comprends avec l'amida que pour chaque mot on peut réussir.
Alors, c'est ce qu'il dit ici. Pareil, c'est pareil pour l'étude. C'est que lorsqu'une personne, par exemple, étudie le Chumash, j'étudie cette année Parasha Lech Lecha. Cette année, j'étudie maintenant Parasha Vayera. Aujourd'hui, j'étudie le Sheni de Parasha Vayera. D'accord? Peut-être que il y a l'année dernière, il y a deux ans, je l'ai pas spécialement pensé que je l'ai fait pour Akadosh Baruch Hu. Mais cette année, quand je l'ai étudié avec les commentaires, j'ai waouh, j'ai kiffé vraiment. Je dis merci Hachem, c'est bon la Torah. Eh ben, toutes les études de la Parasha Vayera que j'ai fait depuis que j'étais au Cheder, ils montent en même temps.
Mais c'est
quelque part un passe-droit que Dieu a fait. Pourquoi Dieu a fait ce passe-droit? Dieu a fait ce passe-droit parce que Dieu est conscient que même dans les cas dans lesquels on n'a pas eu de kavana explicite, implicitement, le juif le fait pour Dieu. Par contre, si le juif avait explicitement une kavana négative pour devenir, etc., rave, là, c'est plus compliqué. Là, il faudrait une teshuva.
Alors, concrète question, Mandy.
Bien sûr.
Donc, d'un autre côté, on te dit que...
Comme celle-là, on a la cavana, il y a un problème, celle-là.
Tu t'obstines à vouloir faire des efforts dans là-dedans, enfin, il y a des cavanas, enfin, je pense ça, et plus ça bloque.
Plus ça bloque? Ouais. Pourquoi ça bloque?
J'ai entendu ça.
Ça bloque depuis...
J'ai compris, alors.
Même des questions.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est
ça bloque, au niveau du ballon.
Il faut développer les autres.
Ça va pas...
Le Zohar, il dit que quand on fait la Amida, il faut pas penser à des demandes personnelles. Demandes personnelles, bien sûr que l'Amida, c'est que ça, a priori, c'est que des demandes personnelles. Alors, le Rabbi explique sur ce Zohar, il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, moi, quand je demande par exemple à Kadosh Baruch Hu la Parnassa, c'est pas pour moi. Moi, je dis, écoute, à Kadosh Baruch Hu, moi, j'aimerais te servir. Si tu me donnais la possibilité de te servir sans gagner de l'argent, je l'aurais fait. Hein, c'est comme l'essence. Si tu m'avais donné une voiture qui roule sans essence, eh ben, je l'aurais prise. Si je te demande l'essence, c'est parce que tu m'as donné une voiture qui a besoin d'essence.
Quand on dirait Faïnia.
Donc, la mienne, elle consomme beaucoup. Alors, il faut de l'essence.
Il faut une réserve.
Donc, je te demande, ça veut dire, toi, tu m'as demandé de rouler. Et il me faut de l'essence. Donc, je te demande l'essence. Maintenant, est-ce que c'est une demande personnelle? Non. Ça veut dire, si je prends ça comme une demande personnelle, je veux de l'essence. Bon, là, ça peut poser problème. D'après le Zohar. Mais si je dis, écoute, moi, je veux te servir. Mais pour te servir, il faut bien... Tu me demandes de balayer, il faut un balai. Comment tu veux que je balaye sans balai? Comme l'homme de ménage qui dit, donnez-moi l'argent pour acheter le balai.
Il y a combien de personnes qui n'ont pas pensé à aller pour que je gagne auto comme ça?
Mais t'as déjà dans la parole de schéma Colin.
Tu veux quoi, de quoi?
Ils te disent que tu peux intégrer une
personne. Une personne quoi?
Oui, mais encore une fois, c'est une demande personnelle dans le sens... Personnelle dans le sens que je ne le fais pas pour moi.
On a tous...
C'est parce que j'aimerais servir Dieu. Non, et je dis voilà, moi ce qui me dérange maintenant, c'est que j'ai un problème ici, et je peux pas te servir tranquillement. Arrange-moi ces problèmes et je te sers tranquillement.
J'ai dit je donne, mais...
Oui.
Une question. Il y a des jours, ça arrive à tout le monde, où t'as pas le temps de faire ta teuf.
Oui.
Tu la fais pas parce que la journée est passée. Tu sens que t'as un
vide. Tu sens pas bien. Hein.
D'accord.
Exactement.
Alors que les autres jours, tu la fais normalement. Et le lendemain, tu as
fait
en sorte de décaler des rendez-vous, etc.
Et la sens, la tuile.
Là, la vérité, là, hier, j'ai pas pu, mais aujourd'hui, je vais absolument la faire comme il se doit.
Tu la sens, là.
D'accord. Bon. Est-ce qu'on rattrape celle qu'on a loupée?
Ah non.
Ou elle est uniquement réservée à celle qu'on a fait au moment?
C'est fini. L'autre peut-être, élément. Encore une fois, après, je rentre pas dans le paramètre Teshuva. Que bon, après, quand j'arriverai en haut, je me poserai pas de questions sur ça.
Non, je parle que quelqu'un qui avait fait Teshuva, etc. Non. Celle-là, elle est complètement scotchée en banc.
Parce qu'il n'y a pas eu la parole. La parole, c'est les ondes. Il n'y a pas eu la parole. Il faut la parole. Il faut parler la tefila et dire les mots de Torah. Sans ça, on génère pas ces ondes.
Et juste une dernière petite chose. Dans le paragraphe de la Amida, pour la santé,
oui.
Refoua.
Oui.
Tu demandes la refoua pour toi?
Non.
Attends.
Et pour les autres?
Non, c'est pas pour toi.
Non,
c'est
pour Israël. C'est marqué Refaïni.
Refaïnou.
Refaïnou.
Toujours au pluriel, oui. Bon.
Mais quand tu demandes la refoua pour ton.
Mais ça change pas, même si je demande pour moi. C'est pas pour moi que je demande. Je dis, moi, Kadosh Baruch Hu, j'aimerais te servir. Mais si je suis pas en bonne santé, je peux pas te servir. Est-ce que tu comprends l'approche?
Très bonne.
C'est qu'en vérité, c'est que moi je le fais pas pour moi. Moi si tu m'avais donné la possibilité de rester normal tout en étant pas en bonne santé, il y a pas de problème. Mais tu m'as créé avec un corps dans lequel quand je suis pas en bonne santé, je suis pas bien.
Non, mais c'est alors même ça.
Oui.
Ça, c'est quand même.
Ouais. Ah oui, c'est un.
Sens, c'est... Mais à la fin, c'est une stratégie quoi. C'est...
Bah, on est obligé.
C'est... Non, mais c'est extra.
Bah, c'est une manière de.
Alors tu disais tout à l'heure, par exemple.
C'est la manière de biaiser le système, mais en réalité.
Pas du tout. Pas du tout. C'est comme un homme de ménage qui va voir le patron, qui le supplie de lui donner un balai. Mais c'est pas pour lui qu'il veut le balai, c'est pour nettoyer la boîte du patron.
Mais si on veut un balai en or, on peut.
Alors c'est comme la paye, tu vois, on parle de la paye par exemple. Pourquoi il est payé l'employé? Est-ce qu'il est payé pour lui, ce qui est le cas en général, ou bien est-ce qu'il est payé pour être là le mois prochain? Parce que s'il est pas payé, il pourra pas manger. S'il pourra pas manger, il sera pas là le mois prochain. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais si tu lui donnes un balai en or, il s'en va.
Est-ce que tu comprends? C'est une approche complètement différente. Ça veut dire, soit tu dis, je suis payé parce que je veux être payé, c'est moi qui vais être payé. Pour ceux qui étaient là jeudi dernier, c'est ma mâche qu'on a expliqué la différence entre le sahir et le chaliar. Bon, je peux pas tout redévelopper, on a pris 20 minutes sur ça. C'est la différence entre un employé et un messager. Un employé, il veut son argent. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de retarder pour le payer. Parce que, il a travaillé pour l'argent. Mais un chaliar, il travaille pas pour l'argent. Un chaliar, d'accord, un émissaire, un messager, il travaille pour la mission. Accessoirement, il sera payé parce que si tu payes pas maintenant, il pourra pas faire la mission la prochaine fois techniquement. Donc tu vas le payer. Mais il travaille pas pour l'argent. Et nous on doit être comme les shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire nous on travaille pas pour recevoir, pour que Dieu dise voilà, j'ai dit moi je te fais une mitzvah, tu m'envoies la parnassa. Non, moi je fais la mitzvah parce qu'il veut faire la mitzvah. Accessoirement, je te demande de m'envoyer la parnassa parce que si tu ne me donnes pas la parnassa et si tu ne me donnes pas la santé, il y aura personne le mois prochain pour te faire tes mitzvot. Alors donne-moi ma parnassa et donne-moi mes trucs.
C'est une bonne technique.
C'est logique, c'est parfait.
C'est un peu du chantage quoi.
C'est pas du tout du chantage.
Non.
Je viens rendre service, mais il faut me donner les outils.
Non, c'est logique.
Tu demandes à quelqu'un de faire une course, tu l'envoies en scooter et tu ne mets pas de l'essence. Il dit je vais bien te rendre service, mais il faut me mettre de l'essence. T'as pas d'essence, je peux rien faire.
C'est clair. Mais oui, dépend de ton niveau de contentement.
C'est un peu la semaine, chaque semaine.
Eh ben, mon niveau de contentement, je dis à Dieu, moi, Dieu, pour être bien dans ma peau, si tu veux que je sois bien dans ma tête, il faut donner une paye avec tant de zéros. Sinon, je suis pas bien dans ma peau. Vas-y, mets 3, 4, 5 zéros, y'a pas de problème.
Amen. T'as posé, là, on va être riche bientôt tous.
Donc, il y a la virgule, hein.
Dès ce soir,
il y a la virgule, hein.
Bon, matin, tu nous vois pas, tu serais pas un milliard.
Bon, alors, on continue.
Il a une paye à 5-0.
Ok.
Qui?
Rabbi Ibrahimovic.
Tu vas me voir demain matin?
J'ai 5-0.
Je vais déposer.
C'est qui? Après,
un mandat.
Alors, je finirai. Allez, Rabot, t'as encore 5 minutes, parce qu'on a commencé un peu en retard.
On n'a pas expliqué alors comment on rectifère.
Alors, ce qu'on a expliqué. Bonjour. On a dit que comme, étant donné que Akadosh Baruch Hu est conscient, que toute cette filote qui ont été faites et toute cette étude qui a été faite Stam, il est conscient que même si on n'a pas pensé explicitement que c'était pour Akadosh Baruch Hu, implicitement, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Dieu sait que, même si j'y ai pas pensé, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Alors, comme Akadosh Baruch Hu le sait, donc il a fait un passe-droit. C'est quoi le passe-droit? C'est que la prochaine fois que je repasserai sur la même étude ou la même tfila et que je la ferai avec Kavana, toutes les mêmes tfilotes et les mêmes études que j'avais fait sans Kavana vont décoller en même temps. T'as compris? C'est une sorte de facilité que Dieu a fait. qui n'est pas normal, qui n'est pas logique, hein, qui n'a aucune logique, mais c'est une facilité que Dieu a fait, parce que Dieu est conscient que quelque part, même si j'ai pas eu de kavana explicite, implicitement j'avais une kavana. Tu vas repasser. L'amida, tu la repasses tous les jours.
L'amida, oui.
Voilà. Et l'étude de la Torah aussi, tu vas repasser. Le chouma, ben tout, tu repasses. On repasse. On repasse beaucoup sur les études. Elle est rabotée, elle continue. Alors donnez-moi encore 5 minutes.
Mais on revient un peu de
que dalle. Après, hein.
Alors, on va sauter quelques lignes. On va prendre la page suivante, parce que moi, les quelques lignes que je vais sauter, là, c'est des lignes de la Picabala. Bon, de toute façon, on a expliqué en gros l'idée. On va sauter quelques lignes, on va prendre la page suivante, page Kouf Nounhe, la quatrième ligne. 309, page 309. Aval, quatrième ligne. Aval, Torah Stam She'ina Shelo Lishma. Une Torah qui étudie Stam. Stam, ça veut dire quoi, comme on a dit? Ça veut dire qu'il n'est pas pour Dieu. Ça veut dire, elle est ni pour Dieu, ni pas pour Dieu. Elle est Stam. Rak me'ava me'souterativit. Mais en vérité, d'où elle provient cette Torah? Elle provient d'un amour caché qu'un juif a envers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire comme ça. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Pourquoi tu crois que je passe une heure de mon temps maintenant à étudier la Torah? Pourquoi tu crois que je passe une heure de mon temps à faire la tefila le matin, midi et soir? C'est que forcément, au fond de moi, il y a un moteur qui me demande de le faire. Même si moi, je ne le pense pas de manière dévoilée et explicite, il y a forcément un moteur. Comment s'appelle ce moteur? Ce moteur caché s'appelle l'amour caché. Chacun de nous a l'amour caché qui est en lui. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, tu sais quoi? À quoi ressemble ton étude? Une étude Stam? Eh ben, elle ressemble à l'étude d'un enfant. Un enfant. Quand tu vas lui faire étudier la Torah, pourquoi tu vas y étudier la Torah? Parce qu'on lui a promis un bonbon. On lui a dit, voilà, si tu auras des bonnes notes, tu vas recevoir un cadeau. Tu vas recevoir un bonbon, tu vas recevoir un, je sais pas ce qu'on leur donne aujourd'hui.
Oui, d'accord? Voilà.
Hein, tu vas lui donner un cadeau. Alors maintenant, cet enfant, quand il va grandir, est-ce que ça veut dire maintenant que quand il a fait pour le bonbon? Bien sûr qu'il a pas fait pour le bonbon. On fait pas pour le bonbon. Le bonbon, c'était un petit peu une carotte pour s'expliquer qu'il doit le faire. Mais en vérité, au fond de lui, il y a un moteur qui le pousse à faire la chose. D'accord? Et c'est pour ça que même l'étude de l'enfant va être récupérée. Et ben, il dit, Kaviachol, nous sommes tous comme des petits enfants. Et que des fois, pour nous attirer, il faut des petits trucs à côté.
Il faut Monsieur Benichou.
Il faut des saucissons, il faut des choux, il faut des trucs comme ça. Il faut un aspect social qui va nous permettre de nous attirer. Mais finalement,
mais c'est le balai du balayeur.
Ça c'est seulement. C'est comme l'enfant, c'est le bonbon, c'est la carotte. Mais l'enfant n'a pas étudié pour le bonbon. L'enfant lui-même, tu vas lui poser la question, tu lui dis, est-ce que tu étudies pour le bonbon? Tiens, non. Il le sait très bien que c'est pas pour le bonbon. Mais le bonbon, ça aide. C'est-à-dire, ça va aider à le permettre de contrer son yitzhara. Eh ben, il dit, c'est la même chose. Nous aussi, on est un petit peu comme cet enfant. On est un peu comme cet enfant que la Gemara, elle dit que l'Evel Tinokot Shel Bet Rabban. C'est très fort ce que dit la Gemara. Et là, vous allez voir qu'on va finir sur une belle parole, qu'on va montrer qu'il faut jamais s'arrêter d'étudier la Torah, et jamais s'arrêter de faire la tefila. Et même si on fait 100 kavana, il faut continuer, parce que le monde tient sur ça. La Gemara, elle dit comme ça. Une fois, Abaye, elle a parlé à Rava. Tout à l'heure, on a parlé d'Abaye et Rava. Et Abaye, elle a dit à Rava, il a dit, tu sais, le monde y tient. Non, c'est Abaye Arav Papa, pardon. Il a dit, tu sais, le monde tient sur le souffle de l'étude de la Torah des enfants. Qui suit la Torah, Bedraban. Tinokot Shel Bedraban. Alors.
Rabban.
De quoi? Tinokot Shel Bedraban. Rabban. Alors, j'ai le fil. Alors, Arav Papa pose la question à Abaye. Il lui dit, et nous? Et notre étude à nous? Notre étude à nous? Voilà la question. Non, il dit, tu me dis, le monde tient sur l'étude de la Torah des enfants. Alors, en toute humilité, hein. Mais bon, c'est des sages qui étudient la Torah toute la journée. Qui étudient 20 heures sur 24 heures. Il lui dit, et nous? Et Didi Védidar, c'est-à-dire mon étude et ton étude, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, non! Le monde tient sur ça. Mais, tu ne peux pas faire ressembler un souffle dans lequel il y a des fautes avec un souffle dans lequel il n'y a pas de fautes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qu'il veut expliquer ici, l'Admor HaZaken, c'est que quelque part, la pureté qu'on retrouve chez les enfants, des fois, le stam, justement, des fois, on peut retrouver des qualités dans le stam.
Tu parles de
naïveté. La naïveté. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la belle chute que je vais expliquer ici. C'est très fin. C'est que, finalement, nous, on a expliqué qu'une étude qui est stam, on a dit, elle reste bloquée. Et tu dis, finalement, le stam n'est pas si stam que ça. Parce que des fois, le stam, c'est un stam qui est pur. Qui est pur, comme ce qui sort de la bouche des enfants. Ça, la bouche des enfants, c'est pur. C'est tellement pur qu'il n'y a ni une pensée positive, ni une négative, ni une pensée tout court. C'est pur, c'est automatique. C'est cool, c'est fluide. D'accord? C'est fluide, ça coule. Alors, ça, dit l'Admor HaZaken, le stam d'un enfant est un stam qui perce les cieux. Parce qu'on a dit que le monde tient sur ça. Donc, il veut finir ce chapitre-là avec une belle parole pour dire qu'il faut jamais négliger une étude stam. Parce que des fois, le stam peut être plus puissant que celui avec Kavana. C'est-à-dire comme ça. Il y a le stam routine, il y a le stam routine et il y a le stam naturel. Quand c'est un stam naturel où c'est fluide, ça coule, celui-là, c'est pas qu'il perce les yeux, il explose les yeux. D'accord? Ça nous rassure ou pas? Elle est belle, elle a bien fini, hein. Il fallait pas la rater, celle-là.
Tu l'as rassuré, il va nous dormir.
Mais bon! Mais après, quand on arrive dans une certaine routine. Après, quand on arrive dans une certaine routine. Et que là, on n'a plus ce stam, on a perdu ce côté naturel. On fait bon, bah, parce qu'il faut le faire. Quand tu viens à la synagogue samedi après-midi, après la DAF, tu t'es réveillé, etc. Bon, comme ça. D'accord? Justement,
on n'en parle pas, David.
C'est ce qu'on dit. Non, mais encore une fois. C'est ce qu'on dit. Si tu l'as fait stam comme un enfant qui l'a fait naturellement, on dit t'as explosé les cieux, même sans kavana t'as explosé les cieux. Maintenant après à un certain moment t'as plus la kavana d'un enfant, tu deviens bon par routine. Là à ce moment-là, Dieu il dit, comme nous on sait la vérité, que même si bon tu l'as fait peut-être quelque part ça t'a cassé les pieds. Écoute bien ce que je viens de dire. Quelque part ça t'a cassé les pieds, mais Akadosh Baruch Hu il sait que implicitement tu l'as fait pour lui. Alors Dieu il dit écoute, dès qu'il y aura un mitra de Shabbat dans lequel tu vas vibrer ce mitra, tous les mitra de Shabbat vont monter. Mais il voulait terminer seulement avec cette phrase qu'il faut jamais négliger le stam, que des fois surtout chez les enfants, chez les balais de chouva, chez les gens simples. Et je pense qu'avec ça, ça peut expliquer l'histoire que j'expliquais tout à l'heure avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui a rassuré ses communautés de juifs simples. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mais continuez votre filote, c'est ça ce qui perce les yeux. Comment on peut expliquer ça? Ils prononcent même pas, ils ont pas de kavana, ils se prononcent très mal, ils ont pas de kavana, c'est qu'ils créent des malachim infirmes. Comment on peut expliquer ça? C'est que, on peut expliquer ça qu'en vérité, ces gens-là, quand ils priaient, ils avaient une telle sincérité dans leur tfila, ils avaient une telle sincérité qu'ils avaient une tfila stam, mais pas stam, comme ça, routine, stam, sincère, pure. Et ça, le Baal Shem Tov leur a dit, mais votre tfila, c'est pas seulement qu'elle passe, elle explose les yeux. Ça, c'est une tfila stam, une bonne tfila stam. Bon, mais vous comprenez qu'avec le temps après, ça, on l'a plus. Ça, avec le temps, on rentre dans la routine, et c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir la kavana, et la kavana nous permet de percer les yeux. Alors, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien cette histoire qu'il raconte ici. On va finir avec l'histoire. Le Rabbi Rachab a raconté une histoire qu'il a entendue du Baal Shem Tov. Il dit, une fois le Rabbi Rachab, c'est deux rabbis de Lubavitch en arrière, il est parti pèleriner sur la tombe du Baal Shem Tov, et en sortant de la tombe du Baal Shem Tov, il a raconté cette histoire à ses élèves. Il leur a dit, une fois, le Baal Shem Tov avait 16 ans. Et lorsqu'il avait 16 ans, il était dans un petit village, et dans ce village, l'aubergiste c'était quelqu'un de très simple, qui savait à peine lire. D'accord? Il savait à peine lire, mais il comprenait bien sûr pas le sens des mots qu'il disait. Mais cette personne-là, c'était un juif qui était un grand Yéré Shamaïm, qui craignait à Kadosh Baruch Hu. Vraiment, c'était quelqu'un qui avait une grande crainte de Dieu. Mais bon, il savait lire, mais il comprenait pas ce qu'il disait. Alors, chaque chose, il avait l'habitude, dès qu'on lui a annoncé une nouvelle, toujours, une phrase sortie de sa bouche, Baruch Hu Umvorar Shemo Lolam Vaed. Béni soit le nom d'Akadosh Baruch Hu à jamais. C'est un peu l'équivalent du Baruch Hashem. Et toujours, Madame l'aubergiste, elle, quand elle entendait son mari dire ça, elle disait, mais vora riez chez moi à Kadosh, que le nom de Dieu soit béni. Bon. Ce jour-là, le Baal Shem Tov, 16 ans, est sorti pour aller un petit peu épancher son cœur à Dieu dans les champs. Le Baal Shem Tov avait l'habitude, dès que vous voulez parler à Dieu, il allait dans les champs. Il est parti donc dans les champs, il a dit quelques mizmorim de Tehilim, et il a commencé à avoir des kavanot. Bon. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il raconte, il dit, donc ça c'est une histoire que le Rabbi Rachab raconte du Baal Shem Tov, que Rabbi Rachab nous a raconté, il a dit, à ce moment-là, quand j'étais en train de penser cette soukine de Tehilim, etc., j'ai oublié ce qui m'entourait, j'ai tout oublié. J'ai oublié que j'étais dans une forêt, qu'il y avait des arbres, qu'il y avait la nature, qu'il y avait des animaux sauvages qui risquaient d'arriver, que la nuit s'approchait, j'ai tout oublié. Et tout d'un coup, dans ce pseudo-rêve dans lequel j'étais, j'ai vu Eliyahu HaNavi avec un grand sourire. Alors, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. C'est pas la première fois que je vois Eliyahu HaNavi, mais d'habitude je vois Eliyahu HaNavi quand je suis accompagné. Parce que le Baal Shem Tov était souvent avec des grands, comme Rabbi Eliyahu Baal Shem, etc., des grands tzadikim qui l'accompagnaient, depuis très jeune déjà. Mais là il dit, tiens, c'est la première fois que je vois Eliyahu HaNavi quand je suis tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il n'a pas compris. Et donc là il se met à réfléchir, il dit, attends, la dernière fois que j'ai vu Eliyahu HaNavi, c'était quand j'étais avec le tzadik Rabbi Meir. Il dit, mais jamais je l'ai vu quand j'étais tout seul. Pourquoi Eliyahu HaNavi est venu me sourire? Alors, c'est ce qu'a répondu Eliyahu HaNavi. Dit le Baal Shem Tov, Eliyahu HaNavi m'a parlé. Il m'a dit, toi, tu es en train de te fatiguer à avoir la kavana des mots, des techniques que tu sors de ta bouche, à savoir quel mot correspond à quel kavana et quel mot correspond à quel nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, tu sais, tu viens de sortir de chez Aaron Shlomo, l'aubergiste, avec sa femme. Eux, ils connaissent pas, quand ils disent leur Tehilim, ils connaissent pas tous les Yichudim que toi tu connais. Mais eux, quand ils disent Baruch Vorar Shemot Ami de Lamvel, quand ils disent Baruch Hashem et Madame dit Baruch Hashem, eux ils percent les cieux. Et c'est pour ça que je rigole, parce que ça me fait rire quand je te vois Yehudim. Et là le Baal Shem Tov, il a dit, quand j'ai entendu ça, hein, j'ai compris qu'il faut jamais négliger la sincérité d'un juif simple. Donc il y a Stam et il y a Stam. Il y a le Stam routine, là effectivement c'est bloqué, mais il y a le Stam comme cet aubergiste là, et que là cet aubergiste, dit le Baal Shem Tov, j'ai compris à 16 ans que Kadosh Baruch Hu, le nachat que Kadosh Baruch Hu a, le plaisir que Kadosh Baruch Hu peut avoir d'une tfila qui peut être faite avec la sincérité d'un juif qui parle à Dieu. Et Akadosh Baruch Hu lui parle, il accepte cette fila telle qu'elle. Et depuis, c'est un enseignement qui est revenu très souvent dans l'enseignement du Baal Shem Tov, l'importance de la sincérité dans ce qu'on fait. Même si, techniquement parlant, peut-être qu'on n'a pas dit les mots comme il fallait, on n'a pas eu la kavana comme il fallait, la sincérité, c'est encore mieux que tout. Voilà, ça va être là pour aujourd'hui. Oui, il y a plein d'histoires sur ça.